Gameblogueuse, gameblogueur, bienvenue en chanson avec Julien qui nous interprète les meilleurs tubes des jingles de la rédaction.
Incroyable, super, vinyle, yes, c'est chanté.
Comme chaque semaine, le podcast de la rédaction, vous aurez reconnu Julien au sifflet qui siffle encore mieux que Micheline Dax qui a pourtant fait plein d'albums comme ça. Il y a Romain aussi avec nous et
salut.
Il y a Julo. Ça y est, vous avez décidé de parasiter le podcast en sifflant. Ouais, très bien. Eh ben écoutez, on va faire ce podcast.
Il a plume. Il avait disparu. Oui, il a réapparu.
Oui, j'ai disparu pas très longtemps non plus. Hein. Faut j'ai pas exagérer. Il s'est rien passé pendant que je suis parti. Donc on va faire immédiatement. On va immédiatement, messieurs, passer au sommaire de
l'émission. C'est ce
l'émission.
Que je disais la dernière fois. Je disais putain quand même quand plume est pas là, il s'en passe des choses.
Ouais bah oui. Rappelez-vous quand Kojima est parti de Konami, j'étais pas là non plus.
Putain, et... c'est un peu comme le mec qui marque des buts et à chaque fois il y a une célébrité qui meurt.
Ouais. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu cette malédiction là.
L'actualité est un peu molle, Plume prend deux jours.
Bam ! Ils annoncent la PS7, la Xbox 12.
Voilà, c'est parce que j'étais ailleurs à ce moment là. On va faire le sommaire de cette émission qui va être encore une fois bien chargée. Vous le savez, d'abord on va passer par le win et le fail, le petit point Enix aussi évidemment, puisqu'il y a toujours des petites informations à droite à gauche
le
concernant.
Petit point quoi ?
Bah, Enix.
Ah. Quoi ? Mais Plumeau, qu'est-ce que tu racontes ?
De quoi ?
Je sais pas ce que c'est.
Il y a pas que Red Dead que t'as loupé pendant les vacances. T'es pas au courant ?
J'ai loupé Red Dead.
Tabata, des
quoi ?
Plein de trucs. Non,
de quoi vous me parlez, les mecs là ?
La Nintendo, comment tu l'appelles, toi ?
Bah, c'est la Nintendo NX, non ?
Ah, le pauvre.
Ils l'ont annoncé, mec, la Switch, ça y est.
Oh là 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 ! Oh, Actor Studio ! Oh là là !
Franchement, mais même moi, j'ai pas cru quand tu n'étais pas là.
Bon, bref, il y aura le petit point Switch, évidemment, puisqu'il y a toujours des petites infos qui sortent. Et après ça, on parlera des trois thèmes principaux de ce podcast, à commencer eh bien, par la Paris Games Week. Vous le savez, elle se tient jusqu'au 31 octobre à la Porte de Versailles à Paris. On
donc
a
elle
pu.
Est peut-être fini si, enfin, elle est même finie si vous l'écoutez normalement et si vous êtes premium, vous pouvez y aller encore ce week-end. Hein, c'est ouvert.
Et vous d'ailleurs, vous pourrez même nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Il y aura donc notre petit point sur la Paris Games Week, ce que nous en avons
pourquoi
pensé.
Les petits points.
Bah parce que s'il est gros, il est imposant, il peut nous écraser la gueule, il peut nous faire mal.
Le point.
Tu préfères un gros point
non,
ou un petit point dans la gueule ?
Je préfère un point.
Bon. Parce que pour Plume, tout ce qui est petit et mignon, c'est pour ça.
Exactement. Voilà, comme Rondoudou. Deuxième thème de la semaine, ce sera Final Fantasy XV d'ailleurs, ça tombe bien. À la Paris Games Week, il a eu droit à une belle place.
On a le jeu. Hein.
Et
enfin,
ben voilà, vous pouvez voir. On a le
là.
Jeu. Voilà,
version
on
a... PS4, version Xbox One.
Et la version PC, on l'attend toujours. Je sais pas où elle est passée.
Tu vas l'attendre un bon bout de temps.
D'accord. Et puis nous finirons avec un jeu, Dragon Ball Xenoverse 2, auquel Romain a joué. Et il nous dira si le jeu est mieux ou pas mieux que le premier épisode, qui était un peu décevant quand même quand il est sorti à l'époque. C'était pas super.
En tout cas, très belle figurine qu'un game blogger nous a ramené.
Akagoku.
Bah écoute, super merci parce qu'elle est quand même magnifique.
Bah elle est même bientôt
à moi. Elle est balèze. Elle est à fleur de peau.
Allez, on commence immédiatement avec le win de la semaine et je vais me tourner vers toi, Romain, puisque on va parler de Microsoft et forcément.
On va parler de réalité virtuelle.
De réalité virtuelle et
ben
Microsoft
oui. Ben oui, réalité virtuelle et Microsoft. Wow. Parce oula. Que ça y est, Microsoft fait partie des grosses sociétés à se lancer officiellement dans le bain de, et complètement dans le bain de la réalité virtuelle. Parce qu'on sait qu'ils avaient un petit partenariat avec Oculus autour de l'Oculus Rift et des manettes Xbox, etc. Là, ils viennent d'annoncer leur propre casque. Et ça m'a un peu fait penser à la stratégie de 3DO et de Sega avec leurs consoles respectives. Parce que, en fait, ils ne vont pas produire eux-mêmes leur casque. Ils confèrent leur technologie à diverses marques comme HP, Dell, Lenovo, Asus, Acer et certainement d'autres.
Les grands constructeurs de PC.
Qui pourront construire des casques de réalité virtuelle Windows 10 avec la technologie de Microsoft. Alors, ces casques-là seront vendus à partir de $299 dès l'année prochaine. Et pourquoi je dis à partir ? Parce qu'il y aura plusieurs types de produits qui seront adaptés aux différentes configurations des PC. Donc en fonction de la puissance de votre machine, bah vous pourrez avoir votre casque de réalité virtuelle. Et certainement, les compétences, les possibilités des différents casques ne seront pas égales. Par contre, un avantage sur tous, c'est que les capteurs, aussi bien intérieurs qu'extérieurs, sont déjà incrustés dans le casque. Donc pas besoin
de
placer de caméra ou de capteur dans la pièce.
Ça, c'est bien,
c'est le casque qui fait tout directement, et ce qui est une très bonne chose.
Mais il faut quand même se rappeler que ça fait pas si longtemps que ça que Microsoft est un constructeur. Avant la première, ils ont commencé à faire des souris, des claviers. Après, ils ont fait la Xbox One, enfin la Xbox tout court même.
Oui.
Et puis après, ils ont fait un peu. Mais ça, maintenant, ils font des tablettes. Mais pendant très très longtemps, Microsoft, ils faisaient du software et compagnie.
Système d'exploitation.
Ils utilisaient
etc.
pareil comme là des deals avec des grands constructeurs. On peut juste revoir l'image, Poufy, parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi, je suis content parce qu'ils ont repris finalement beaucoup plus le fixation PlayStation VR, c'est-à-dire quelque chose qui se met sur le front et où il n'y a pas des straps, enfin des comment,
en dur.
Voilà, une fixation en dur, et non pas
des lanières,
des scratchs, etc., qui à l'usage sur le HTC Vive et sur l'Oculus sont pas très pratiques. Là, c'est la plus pratique. Par contre, bon, c'est subjectif, mais je trouve que c'est assez moche.
Mais tu sais, moi,
mais c'est pas des designs définitifs.
Ça me fait penser au casque de réalité virtuelle que tu voyais dans les films dans les années 80.
Vieux
quand
truc,
quand ils représentaient la réalité virtuelle, ils avaient toujours des trucs avec des traits très droits, etc. Et par contre, cette histoire, ça soulève une interrogation vis-à-vis de la Xbox Scorpio.
Absolument.
Parce que si vous avez suivi l'actualité au moment de l'E3 dernier, Microsoft, pendant la vidéo de présentation de la Scorpio, ils avaient clairement indiqué que la console serait...
compatible réalité virtuelle.
Réalité virtuelle ready, tu sais. Comme,
voilà, et
comme
on imaginait que ce serait avec Oculus Rift, vu qu'il y a un partenariat.
Et c'est ce que j'avais demandé à Phil Spencer quand je l'ai interviewé. Je lui ai demandé, est-ce que donc on peut en déduire, vu que la Scorpio sera compatible réalité virtuelle, est-ce qu'on peut en déduire que ça sera avec l'Oculus Rift?
Et là, il t'avait répondu, oh Romain, go fuck yourself. Et puis il était parti.
Non, il me parle pas comme ça, Phil.
Ah, ok.
Il est beaucoup plus cool que ça.
Je sais.
Il m'avait dit, il faut, c'est pas parce qu'on a un partenariat sur PC avec Oculus qu'il faut obligatoirement en déduire que ça sera ce casque. Que là sur Scorpio, il n'avait pas voulu plus rentrer dans les détails, mais il avait quand même tenu à préciser
mais
ça. Donc là, ça veut dire que il y a des grandes chances que un de ces casques maison soit compatible avec la Xbox Scorpio.
Ouais.
Moi, ça peut-être un casque brandé Xbox.
Ouais,
pour le
moi, je pense que c'est pas possible qu'il fasse pas un casque Xbox ou un truc.
Faut pas oublier non plus qu'il planche énormément sur les casques, on va dire hybrides, qui font réalité augmentée et réalité
mixte.
Voilà, réalité
mixte. Ça sera peut-être les.
Ça sera peut-être ça aussi qui sera compatible avec la Scorpio.
Ah, moi, je suis persuadé, j'en mets mon billet, que quand ils vont annoncer la Scorpio, en même temps ou très peu de temps après, Microsoft annoncera son casque de réalité virtuelle, probablement effectivement avec de la réalité mixte et augmentée et virtuelle.
Et là, on n'en pourra plus d'extase.
Ah ben, si c'est bien, oui.
Tiens, tu sais quoi, je vais te confier, Julien, parce que je sais pas si je vais réussir à bien m'en servir.
Ça c'était
le
win.
C'était le win.
Oh, voilà. J'ai des sous.
En tout cas, maintenant, dans les gros, il manque plus qu'Apple, quoi.
Bah oui.
En ce qui concerne la réalité virtuelle ou même la réalité augmentée, on ne sait pas trop ce qu'ils vont.
Ils devraient dire quand même une télé, une bagnole. Ouais. Et
La télé, ça se précise quand même violemment. Après, la conf dire. Avec toute l'interface unifiée, tout le système, il est fait. Il n'y a plus qu'à l'objet.
Non, mais ils vont
Apple,
dans des maisons.
Et la voiture, ça
a déjà précisé les choses. Hein. Ils ont dit que eux, ce sera réalité mixte. Donc, il y en a deux qui n'ont pas encore dégainé finalement. C'est Microsoft et Apple. Et les deux, a priori, sont un peu dans le même
mais mode. Mais là, on sera pas dans les mêmes tarifs si c'est dans un avenir proche.
Donc. Si c'est comme les tarifs des nouveaux MacBook, oui, ça va être
cher. Ou de HoloLens, oui.
Ou de HoloLens.
Par exemple. Bon, on va passer au fail, du coup.
Donc tu veux que je fasse ça?
Oh là là, ouais, tu le feras mieux que moi. Le fail, je me tourne vers qui? Je vais me tourner vers toi, Julien.
Ah, c'est moi.
Bah oui. Bonjour. Et puis Julo aussi, un petit peu, parce que vous êtes un peu les darons de la rédaction.
Enfin, ça nous concerne tous, hein.
Ça nous concerne tous, évidemment.
Ça concerne nos lecteurs.
Voilà, ça vous concerne nos lecteurs, ça concerne, on va dire, la ligne éditoriale. Évidemment de Gameblog, c'est
qui va pas changer, hein.
cette missive visible sur le site officiel de Bethesda, sur lequel ils disent on n'enverra plus nos jeux. On n'enverra plus les versions presse avant le jour précédant la sortie du jeu pour que les joueurs comme la presse découvrent le jeu en même temps.
C'est marrant parce que techniquement, vous connaissez la ligne justement de Gameblog sur ce sujet-là. Quand un éditeur ne nous envoie pas ou ne nous permet pas de faire le test avant la date de sortie du jeu, entre guillemets, on se débrouille par nos propres moyens. Parce que nous, notre envie, c'est de vous donner l'information, et il nous paraît logique, avant que vous achetiez le jeu, et potentiellement, on le sait, vous êtes très nombreux, sur les gros jeux en tout cas, à vouloir vous procurer ce qu'on appelle Day One.
Et à précommander.
Bah alors là, on peut pas faire grand chose. S'ils ont précommandé, je veux dire.
Oh,
là,
mais tu peux toujours annuler. Hein.
Oui, tu peux annuler. Mais donc, pour vous donner l'information le plus vite possible. Là, effectivement, Bethesda a officialisé, et ça va être ça donc à partir de maintenant, mais c'était déjà un peu le cas, mais là maintenant c'est clair.
Spécial
à partir de Skyrim Special Edition, qui n'enverront plus à la presse et aux influenceurs de version un jour avant la sortie. Alors, je trouve ça rigolo, parce que comme ça, ils peuvent très bien. Ils peuvent dire. Bah, on vous a quand même fourni la version avant la sortie, tu vois, genre, mais vous pouvez quand même faire vos trucs.
Vous auriez pu faire votre test en une journée.
Oui, je comprends pas. Donc c'est totalement impossible.
Skyrim,
donc,
c'est pas très long en plus.
En vrai, moi je vais vous dire un truc tout bête. En fait, pour nous, ça va pas changer grand chose. C'est-à-dire, dans le cas maintenant de Bethesda, c'est clair, c'est net, on va se débrouiller par nous-mêmes. Je veux dire, à chaque fois, c'est simple. On n'est pas dans une course, dans ce genre de cas, à vouloir publier en premier ou je sais pas quoi. Évidemment, oui, c'est mieux. Donc ça veut dire, si on a le temps. temps de le
finir. On essaie toujours de le faire le plus vite possible,
bien sûr.
Mais possible.
Mais,
voilà.
Mais possible. C'est pour ça que vous avez déjà vu des jeux qu'on a publiés, entre guillemets, avant tout le monde, quand c'était ce genre de cas-là, et parfois bah, après tout le monde, parce que notre objectif est de toujours le mieux vous informer et non pas le plus vite vous informer. C'est ça qui est la clé de toute cette histoire.
Ce qui est dommage quand même, c'est que j'ai peur que ça se généralise un petit peu quand même. Bah, parce
ça va
que,
être le cas. Donc, c'est pareil.
On a travaillé dans la presse papier il y a un bout de temps, et c'est vrai qu'à l'époque, bah, forcément, là, ils étaient obligés, parce que les bouclages ont lieu très tôt par rapport à la sortie des magazines. On recevait les jeux un mois, parfois un mois et demi avant leur sortie. Donc depuis le web, déjà, ça tendait à se rétrécir de plus en plus. Là, on arrive carrément donc la veille ou le jour de la sortie. Et effectivement, tu le disais, c'est pas le seul. Bethesda, non, non. 2K Games, par exemple, nous a envoyé NBA 2K.
Bah, on voit ces jeux le jour de la sortie.
Voilà. WWE. Ce
qui fait voilà. Et Mafia, d'ailleurs, on voilà. a dû aller on acheter est... le jeu nous-mêmes pour pouvoir faire quelque chose avant le voilà. jour de la date.
Ce qui
de
nous vaut d'être
sortie,
très fâchés, enfin pas nous, hein, mais 2K est très fâché avec nous. Donc on risque de pas recevoir leur prochain jeu.
Techniquement, voilà, Civilization.
Avec Civilization 6.
On est en retard sur Civilization 6 à cause de ça.
Et là, maintenant, on va se retrouver dans des cas de tests exclusifs. En fait, il y aura des comment dire, je pense, des médias et certainement des influenceurs, youtubeurs, ouais. etc., qui seront eux whitelistés, qui eux pourront recevoir les jeux en avance et auront des exclus, ce qui garantira certainement, je pense, un traitement un peu plus.
Il y aura du cassage de Street Date à foison, il y aura des gens qui vont streamer les shows.
C'est pour ça que je sais pas si pour les joueurs, fondamentalement, pour nous, on va voir ce que ça va changer. Pour les joueurs, peut-être qu'en fait. Moi, c'est quelque chose que je pense depuis un bon bout de temps. Je pense que la presse et les relations presse vont s'éloigner de plus en plus. Certains trouveront bah, c'est tant mieux et ça aurait dû être comme ça depuis le début. Bon, moi, ce que je peux vous dire, c'est que professionnellement, nous, on a toujours gardé notre intégrité. Enfin, je veux dire, chaque personne ici, personne qui a eu une imposition de notes ou quoi que ce soit, jamais, en aucun cas. En revanche, bah, c'est sûr que c'est mieux de travailler quand même avec l'éditeur pour avoir, par exemple, accès à des interviews, des reportages, des choses qu'on vous donne à vous en plus. Faire ce genre de choses ne veut pas dire, ce n'est pas conditionné par une notation positive à la fin lorsque le test, puisque après, bah, c'est à la liberté totalement de la rédaction de le noter bien ou pas, même si on a fait 15 000 interviews, 12 000 reportages, et même si, par exemple, parce que ça peut arriver, on est des humains, on peut s'entendre bien avec des gens d'une équipe de développement ou autre. À la fin, c'est la qualité du jeu qui prime. Par contre, ce que ça va nous permettre de faire, encore plus, si, et je pense que c'est là où la course va être assez dingue, c'est que je pense, t'as raison Plumeau, que les street dates vont être de plus en plus cassées et que donc les rédactions vont se ruer, alors nous on est à Paris, à République, à Voltaire, où il y a pas mal d'échoppes qui généralement vendent les jeux avant la date officielle de sortie.
C'est mignon, les échoppes.
Les échoppes. Et donc en fait, pour vous, bah, on va vous faire... Bah, le test peut-être pas à l'heure, mais des streams, des lives, comme on l'a fait avec Mafia. Et donc peut-être, et ça parfois on n'avait pas le droit de le faire avant avec les NDA, et à partir du moment où on signe un NDA, on va pas le casser à mi-chemin, je veux dire. Donc on était tenu de respecter ça, c'est normal. Là, comme on n'aura plus de NDA, bah, on va faire vraiment ce qu'on veut. Et donc peut-être que vous allez pas avoir la note avant, mais vous aurez le jeu probablement, vous le verrez tourner, et nos premières impressions de premières heures de jeu avant la sortie. Tu vois, peut-être que c'est ça que ça va permettre de faire.
Moi, je pense vraiment que cette décision prise par Bethesda et déjà appliquée par d'autres éditeurs, c'est vachement à double tranchant pour eux. Mais vraiment, hein, parce qu'ils donnent le prétexte de la découverte en même temps que les joueurs et de l'absence de spoilers, etc. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que quand on recevait les jeux en avance, c'était souvent accompagné d'un document de plusieurs pages qui nous indiquait, dans votre test, n'évoquez pas tel point, tel point, tel point, tel point. Ça voulait pas dire qu'on n'avait pas le droit de critiquer le jeu. Voilà. Oui, voilà. Les points de scénario ou certaines missions dans nos tests vidéo qu'on pouvait pas montrer,
et en vrai,
etc.
Ça paraissait logique.
Oui, voilà, c'est pour pas spoiler.
Alors qu'il y a des streamers qui vont pas se gêner
aussi dans les jeux en avance. Et aussi, vous pouvez faire votre test, mais vous n'avez pas le droit de faire de test vidéo. Ou si vous faites un test vidéo, c'est que sur cette partie-là du jeu. Maintenant, il y a des chances qu'on ait les jeux plus en avance, parce qu'il arrive que les boutiques à Voltaire, République, etc., aient les jeux. Deux semaines avant que nous on les recevions.
Deux semaines,
ça arrive.
Un peu fort, quand même.
Alors ils arrivent
au moins
à faire
une
de la rétention quand même, les éditeurs.
Mais
sur Mafia, ils ont tenu très très.
Sur,
très
oui, mais sur certains jeux, il arrive, on va dire une semaine.
Moi je dirais plutôt trois jours. Hein.
Mais,
oui, c'est plutôt trois jours.
Plutôt trois jours que d'une semaine. Hein.
Mais on les aura en avance et il n'y aura plus aucune restriction. Et après, il y a aussi le côté méfiance. Parce que moi, j'ai tendance à être un peu méfiant quand l'éditeur veut pas envoyer le jeu en avance et qu'il a des trucs à cacher. Alors après, Bethesda a dit non, mais regardez, on a fait la même chose avec Doom
et ça s'est bien passé.
Et le jeu était très bon, donc c'est pas pour ça qu'on le fait. Mais après, moi, peut-être l'esprit un peu cherche le mal partout. Je me dis, c'était une décision consciemment prise à l'époque de Doom pour dire on va le faire. Des Doom, on sait que c'est bon, parce que les faut pas se leurrer, les éditeurs avant la sortie de leur jeu savent s'ils seront bons ou pas, hein, parce qu'ils ont eu plein de tests, de focus group, etc.
Silent review, on appelle ça.
Donc voilà, donc ils le savent, hein, si le jeu est mauvais ou pas. Mais donc ils se sont dit on va faire ça avec Doom qui est un bon jeu, comme ça ensuite ils pourront pas nous reprocher de l'avoir fait pour cacher quoi que ce soit. Donc après on peut supposer plein de choses, mais je suis pas certain que les éditeurs ça soit gagnant pour eux au final.
Ce qui est sûr, c'est qu'à nous ça va nous coûter plus cher, parce que ça, forcément certain. Avant on recevait le jeu, vous le comprenez bien, voilà, alors que là on va devoir aller l'acheter. Vous n'allez pas pleurer et nous n'allons pas pleurer parce que ça c'est quoi, c'est 50-70 euros. Cela dit, si tous les éditeurs font ça, ça va être un peu plus compliqué, et les premiums d'autant plus, merci. Mais bon, en tout cas nous on est assez serein avec ça, ça change pas notre vie, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va pas changer la manière dont on va traiter les jeux de X ou Y, donc de Bethesda aussi. On va pas leur mettre des moins bonnes notes parce que soudainement ils font ça, ou des meilleures notes parce qu'ils font ça, etc. Ça changera rien en tout cas sur les tests, mais peut-être que ça va changer dans le processus de fabrication du test. Ça c'est très possible. On vous informera à chaque fois. Bah, vous n'aurez pas le test à temps parce qu'on ne l'a pas, ou vous l'aurez peut-être avant parce qu'on va pouvoir l'avoir acheté. On essaiera de vous le dire. Cela dit, une fois de plus, ça concerne surtout les gros jeux, parce que nous sommes encore une petite rédaction quand même, même si nous avons presque 10 ans et que nous sommes aujourd'hui le deuxième site de jeux vidéo en France. On reste quand même une rédaction qui est pas... voilà. Donc, on se concentre aussi sur les jeux que vous attendez le plus, sur lesquels il y a le plus d'engouement. C'est aussi pour ça qu'on avait ça avec Mafia 3, parce que c'était le jeu que vous attendiez énormément. Donc, je ne saurais trop vous conseiller. Vous savez, sur chaque fiche de jeu, vous avez possibilité de dire « j'attends ce jeu », etc. Et en bas, sur la home, il y a un classement des 10 jeux les plus attendus de la communauté. Actuellement, c'est Final Fantasy XV. On vous l'a dit depuis des années, on l'a toujours fait. On regarde ces jeux qui sont dans le top de ce classement, de votre classement d'attente, et c'est là-dessus qu'on met le plus d'attention, quoi. Donc, bah, dites-nous quels sont les jeux que vous attendez le plus, et on mettra le paquet dessus pour vous informer au mieux.
Et une dernière petite chose à ce sujet, parce que je viens d'y repenser, parce que ça a aussi soulevé auprès de certaines personnes cette annonce, le débat de l'utilité de la presse. Certains disent bah maintenant les éditeurs se passent de la presse, la presse jeux vidéo ne sert plus à rien, etc. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que oui, les éditeurs nous envoient plus les jeux, enfin certains nous envoient plus les jeux avant, mais en attendant ça ne les empêche pas de nous abreuver de trailers et de trucs pendant les mois qui précèdent la sortie du jeu. Là pour le coup ils sont bien contents qu'on soit là, c'est en fait c'est à géométrie variable, ça dépend du moment et de la situation. Ils sont bien contents,
ils n'hésitent pas à lancer aussi hein, quand c'est comme ça d'ailleurs hein. S'ils ne le voient pas paru des fois, c'est dis donc vous avez vu ce trailer machin, oui c'est vrai, pardon. Ça peut arriver aussi de temps en temps.
Parfois on les met, parfois on les met pas.
Oui, parfois on les oublie, parfois ça passe sous le radar.
Si c'est pas intéressant. Ouais. Ou, de toute manière, voilà, à la fin c'est une décision de rédaction. Voilà.
Absolument. Et ne précommandez pas vos jeux. Voilà, c'était ça aussi l'enseignement qu'on pouvait tirer.
Bah, ça dépend si t'as un bon prix quand même. Je sais pas.
Oui, mais bon.
Moi je serais joueur, si je suis préco et que j'ai un bon prix.
On sait jamais.
Parce que tu peux revendre tes
jeux. On n'est jamais au courant de ce qui va se passer jusqu'à la dernière seconde. L'exemple Mafia 3.
Cela dit, c'est subjectif aussi. Hein.
Oui, c'est
à
vrai,
chaque fois, nous, la note qu'on donne, bah, globalement, quand même, vous le savez, c'est la note de Gameblog, évidemment. Mais enfin, quand même, avant tout, c'est la note du rédacteur. Parce qu'on rêverait de pouvoir être 15 à tester les jeux et vous donner une note collégiale, etc. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, justement, on reçoit une version du jeu, très peu de temps à la sortie. Donc c'est pas évident d'être plusieurs à donner un avis. C'est d'ailleurs pour ça qu'à chaque fois on essaye de choisir le rédacteur qui a le plus d'acquaintance avec le genre, le style, etc. Pas parce que c'est un fanboy, mais parce qu'il a la meilleure perception de comment se classe ce jeu par rapport à sa concurrence, etc. Un mec qui déteste le foot, on va pas lui filer un jeu de foot. Un mec
L'année prochaine c'est moi qui fais FIFA hein.
Voilà,
je préviens tout de suite, bon. Vous allez voir le test. Parfait.
Ça va être aux petits oignons.
Aux petits oignons, exactement. On va passer maintenant donc au point N. J'ai vraiment du mal. Non, au point Switch, évidemment, puisque la Nintendo Switch a été annoncée pendant mes saloperies de vacances le 20 octobre dernier. Sale date d'ailleurs, hein, dans l'année, il faut quand même le dire.
J'ai été gâté pour mon anniversaire.
Oui, t'étais très gâté pour ton anniversaire.
Tu l'as su tout de suite ou tu l'as su un peu après, ou au moment où c'est tombé, tu faisais complètement autre chose?
Je faisais complètement autre chose. Je l'ai appris par Gameblog. J'ai vu un tweet quand j'avais un peu de réseau, tu vois. J'ai vu un tweet, j'ai fait putain.
Et donc, on peut dire officiellement la Switch. Nintendo l'a dit.
C'est vrai.
C'est pour Romain.
Eh bien, si c'est la Switch, il sera question de la
Très
Switch.
Très bien, la Nintendo Switch.
Nintendo l'a dit, alors Romain va le faire.
Puisque maintenant, on sait quelques petits trucs par rapport à cette machine. Notamment, il y aura rien normalement qui sera montré avant la fin de l'année. Ça fait un peu point NX hein, quand je dis ça, mais en fait,
il y aura rien.
La prochaine échéance.
Ils ont montré la console.
Oui, mais la prochaine échéance avec date de sortie, prix, etc. Ce sera le 13 janvier prochain avec une
conférence.
Et voilà.
Et là, Julien est certain, heureux dans les yeux. Je leur fais, vous avez vu? Ils ont se sont dit, ça veut pas du tout dire qu'il y aura plus jamais de Nintendo Direct. Hein. Et même moi, je trouve, c'est très, enfin, les deux peuvent totalement cohabiter. Mais quand t'annonces une console, là, ils l'ont très bien fait. Ils ont hypé. En gros, cette vidéo de 3 minutes, c'est un teaser. Voilà. C'est le teaser pour que tout le monde se dise, ah ok, j'ai compris. Et le vrai reveal avec les stats,
vous avez vu
les
chiffres,
les specs, les machins, ce sera lors d'une conférence, et tant mieux.
Les stats sur Twitter de la révélation de Red Dead Redemption 2, qui était quand même déjà un tonnerre,
ouais, mais c'était sûr.
C'était aux alentours de 50 000 tweets, je crois, en une heure. Et pour la Switch, on a dépassé le million de retweets une poignée d'heures.
Non,
quoi.
Mais à la fois, tu peux pas, enfin, je trouve que tu peux pas comparer l'annonce d'une nouvelle console
bien sûr.
À un gros jeu, même si c'est
mais
l'un
ça veut
des
dire
jeux
que
les plus attendus de 2017 et machin.
Le retentissement est là, quoi. L'engouement est là.
Mais on le sentait, on le savait. Enfin, je veux dire, il suffit de voir à chaque rumeur ou pas, hein, parce que si vous êtes attentif à Gameblog, je vais pas revenir dessus, mais enfin, il y avait quand même beaucoup de choses que vous saviez et beaucoup de choses que vous savez déjà, en fait, qui vont être dites le 13. Mais quand même, t'as toujours envie de savoir pour de vrai, c'est normal.
Et moi, j'aimerais bien connaître l'avis des gens qui soutenaient que les conférences ne servaient plus à rien pour Nintendo et qu'ils n'en feraient plus jamais, etc. Et là, maintenant, je suis sûr qu'ils doivent dire « Ah ben non, c'est génial, ils refont une conférence, regardez, c'est le grand Nintendo, etc. » Donc, je serais curieux de connaître.
Donc, ce serait un événement, cela dit, un peu particulier, parce que à la suite de la conférence, tous les gens qui viennent, et qui a priori, c'est ouvert à tous.
Pas la conférence, non. La conférence, c'est médias et partenaires.
Oui, mais juste après, ils montrent la console.
Il y a d'abord...
Tu vas pouvoir jouer avec, etc.
Non, pour le grand public, c'est le lendemain, en fait. C'est à partir
c'est le
du lendemain.
Ouais. D'accord. Je pensais
oui,
que
parce que
juste après.
C'est vrai qu'on apprend aussi que le grand
ça,
public va pouvoir y jouer avant la sortie.
Non, mais ça, c'est vachement bien. Ça diffère un petit peu de.
Mais c'est très bien, et c'est une fois de plus pas antinomique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a essayé de vous expliquer, de vous dire pour certains. Il y en a qui avaient très bien compris, hein, évidemment, la majorité d'ailleurs. Mais on peut faire des choses et autre chose aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu fais une conf que le reste tu fais plus Nintendo Direct, machin. Donc Nintendo est très intelligent sur le coup. C'est une machine qu'il faut essayer aussi, qu'il faut prendre en main, regarder, bah, à la suite de la conférence, et dans plusieurs pays du monde, en Europe notamment, on a essayé de demander si ce sera en France. Je peux vous dire que c'est pas officiel, mais enfin, on sent que oui. Après, dans quelle ville, je ne sais pas, hein, avec un S ou pas. Mais finalement, c'est ce que PlayStation fait aussi avec le PlayStation VR, avec des PlayStation Experience dans plusieurs endroits. Et je pense que très honnêtement, chaque constructeur aujourd'hui fera la même chose probablement, parce que c'est quand même le meilleur moyen de toucher les joueurs, d'essayer de les convaincre, de leur montrer, c'est de les mettre dans la main. Et tant mieux, voilà. Et bah donc il y aura des sessions de jeu qui seront ouvertes à la presse et aussi aux joueurs. Ça me paraît sain, logique et très bien pour bien appréhender une machine qui sortira donc en mars.
Absolument, et pour laquelle nous n'avons toujours pas de date pour l'instant, ni de prix.
Date et prix, c'est à la conf de
oui,
janvier.
Bien sûr, oui, c'est
tu peux t'attendre entre le 10 et le 20 mars ou un truc comme ça, je sais pas. On verra.
Il y avait aussi des accessoires qui ont été évoqués par Tatsumi Kimishima.
Ah bah alors, en fait, c'est intéressant parce que exactement là où je suis assis, ma jambe droite là, se tenait Hajime Tabata il y a quelques jours à Gameblog, donc le producteur de Final Fantasy XV.
Mais d'ailleurs, c'est pas le seul qui est venu.
Réalisateur.
On peut en parler là vite fait.
C'est réalisateur Hajime Tabata.
Oui, c'est réalisateur. Oui.
Bah, c'est le grand chef quoi.
Okay. Ouais, ouais. Le grand Manitou.
Ah oui, il y a eu d'autres personnes, il y a eu Rui Sasuriya qui est venu, les développeurs, les créateurs de Dishonored 2 aussi, enfin bon, beaucoup d'interviews à venir sur Gameblog, en plus des interviews de Hugues Ouvrard, le président, le directeur de Xbox France,
Philippe Cardon,
le président lui, de PlayStation France, je crois qu'il y en a d'autres, bon. Et il y aura vous êtes beaucoup à avoir demandé, alors Nintendo ça suit? Oui, évidemment, je suis déjà en contact avec Nintendo pour qu'il y ait cette interview-là, vous comprendrez bien que d'un commun accord, nous avons agréé sur le fait qu'il sera plus intéressant de le faire après le 12 ou 13 janvier, qu'il y aura plus de choses à dire que pour l'instant, à part « je peux pas dire ». Donc, soyez patients, mais oui, ce sera évidemment sur Gameblog. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire?
Je ne sais plus.
Les accessoires. Et donc, Hajime Tabata, dans une interview où il nous a parlé de la Nintendo Switch, de son attrait pour la Nintendo Switch, avec un grand sourire en nous disant que lui, en tant que joueur et développeur, il avait bien envie de faire un jeu pour la Nintendo Switch.
Mais il est super
Switch.
Souriant
est
depuis qu'il sait que le jeu
est gold et
gold.
Bien,
etc. Depuis l'annonce du report.
Depuis qu'ils ont relâché ses enfants, il est beaucoup plus détendu.
Non, mais par contre, il nous a expliqué à quel point ça fait longtemps qu'il n'a pas vu sa fille et qu'il a hâte de la voir. Et ben, il nous a glissé un truc que sur le moment, on a fait tiens, on l'avait jamais entendu. Et on s'est demandé, est-ce que c'est peut-être une traduction un peu pas...
Lost in Translation.
Pas parfaite ou autre, qui était... il a décrit ce qu'était la Switch et il a glissé des accessoires qu'on pourra lui ajouter ou des trucs comme ça. Et là, on s'est dit, mais ça, on l'a pas vu dans la vidéo.
Des éléments modifiables ou tout.
Et bien, je crois, quoi, 24 heures après Romain,
ouais,
c'est
le
président Nintendo qui l'a confirmé.
Ouais, c'est le lendemain ou le surlendemain, c'est Tatsumi Kimishima dans une interview accordée à Bloomberg où en fait il revenait sur l'annonce, enfin la vidéo de présentation de la Switch. D'ailleurs, il a dit mot pour mot, je ne comprends pas pourquoi l'action Nintendo a baissé juste après. Il s'explique pas la réaction des investisseurs. Enfin bref, on est hors sujet.
Tu sais, parfois.
Et il a dit que oui, il y aurait tout. Et même lui, c'était marrant parce qu'il savait pas
il
trop
sait pas
comment
c'est
le dire.
Mot accessoire ou, voilà,
il disait,
ou pas.
Il y aura toute une gamme d'accessoires. Ensuite,
vaste
il dit.
Gamme.
Ensuite, il dit. Add-on hardware, il dit ouais, en fait non, c'est peut-être plus juste de dire accessoires, mais en tout cas il y en aura une vaste gamme. Donc oui, on peut s'attendre à énormément de périphériques qui viendront remplacer les Joy-Con de base.
Regardez l'image que Poufy met, c'est un montage.
Voilà, c'est une vision d'auteur. Il y a la même avec la Super NES.
Pour
et
ceux qui ne sont pas premium, bon déjà c'est pas très cool, mais ensuite
c'est vrai.
Vous n'avez pas l'image.
Vous pouvez savoir qu'il y a des mock-ups assez fantastiques qui ont été créés avec aux couleurs de la Nintendo 64, de la Super Nintendo, de la GameCube.
Ils retirent les Joy-Con, donc les petites manettes, et à la place ils mettent des espèces de manette GameCube.
Les deux moitiés d'une manette GameCube.
Mais vous pouvez imaginer n'importe quoi. Des éditions collector aux couleurs de la NES, aux couleurs du jeu en question. Vous pouvez imaginer des cannes à pêche avec des trucs, des fusils que vous allez clipser à l'intérieur. En gros, clairement, cet écran, il va aller se balader partout. Et d'ailleurs, en fait.
On pourrait imaginer le volant d'un Fenwick de Shenmue aussi,
un volant pour Mario Kart. Mais d'ailleurs, dans la vidéo, en fait, on voit déjà un truc. C'est l'accessoire pour mettre la Switch sur les appuis-têtes d'une voiture.
Ah oui, c'est
on
vrai.
On le voit ça.
C'est
et
exact.
On le voit, ils font clac, vraiment. Donc oui, il va avoir plein d'accessoires. Tu peux imaginer. En vrai, pour l'instant, on ne sait pas. Il n'y a pas eu de matérialisation. Tout ça, une fois de plus, les images que vous voyez, c'est des dessins d'artistes. Mais on peut imaginer plein de choses. Et moi, je vous dis, après les Amiibo, ça. Mais laisse tomber combien ils vont t'en vendre. Des packs sont à 49€ les petits Joy-Con collector.
Et imagine s'il y a des contrats avec des éditeurs tiers. Allez, oh tiens, une manette Lara Croft.
Pour le coup, je trouve ça beaucoup plus utile que les Amiibo. Parce que là, au moins, ça peut enrichir l'expérience de gameplay. Parce que c'est vrai qu'on a vu les Joy-Con en termes de nombre de boutons, etc. Ils sont pas forcément adaptés à tous les jeux. Et avec d'éventuels accessoires comme ça, ça permettrait d'étoffer le gameplay.
Et imagine à l'image de ce que fait Nike avec ses baskets, de ce que fait Microsoft avec la nouvelle manette, d'avoir un site où tu peux personnaliser, tu mets les couleurs que tu veux, tu pimes ton truc, tu mets ton nom, tu mets machin, parce que finalement ces manettes là tu vas pouvoir les trimballer, on va pouvoir jouer à plusieurs.
Imagine
tu ramènes
peu,
tes propres manettes.
Non, c'est l'autre.
Hop, et voilà.
Mais moi, à mon avis, il y a plein de questions essentielles qui vont déterminer le succès ou pas de la Switch. Aujourd'hui, c'est impossible de dire c'est sûr ça va cartonner ou c'est sûr ça va pas marcher. On connaît pas le prix, on connaît pas l'autonomie, il nous faut le line-up de jeu, tout ça. Cela dit, je trouve que ce qui se présage est un potentiel retour du cash chez Nintendo, mais genre violent.
Oui, puis surtout le message est clair. Enfin bon, ça vous avez eu l'occasion d'en parler déjà, la dernière fois.
Alors ça, c'est une petite information en plus. Quand je vais avoir 4 minutes 30, je vais essayer de vous faire l'interview. Mais j'ai pu avoir une personne qui travaille dans une très grande chaîne, si ce n'est la première, de jeux vidéo en France, qui me disait que les retours du public, des joueurs, et quels qu'ils soient, c'est-à-dire des joueurs un peu hardcore, des mamans qui venaient en boutique, etc., étaient visiblement... tous unanimes, genre un message très bien compris, deux, putain alors la Switch, plein de questions, mais genre positives, genre alors elle fera ça, ouais, cool, quand est-ce qu'on peut faire de la préco, machin, et apparemment ils ont un fichier client, en fait, où ça vous permet d'être après contacté, genre ah, bah, ça y est, les précommandes sont lancées, est-ce que vous voulez en être ou pas, ils l'avaient lancé sur la PS4, ils l'avaient fait sur la Xbox One, et ils le refont donc, c'est tout naturel, sur la Switch. Ils sont, on va dire, après une semaine de présence de ce fichier, dans des volumes, mais tellement supérieurs à la même période, sur une semaine après, à la PS4, qui était déjà très très forte, qu'ils en sont eux-mêmes surpris. Ça veut pas dire que, ça se trouve, c'est juste un effet, puis après ça s'arrête. Hein. Mais en tout cas, l'engouement initial est très élevé.
Après, il y a d'autres infos qu'on a eues récemment, qu'on n'avait pas la semaine dernière, par exemple.
Ouais.
Nintendo a confirmé que chaque Switch sera vendu avec le dock. En fait, on ne pourra pas
acheter... Le dock de Retour vers le futur ?
Non, le Libyen. On ne pourra pas comment dire.
Ou le Doc Edifool peut-être.
Oui aussi. On ne pourra pas ou Doc Martins.
Ou Doc Martins.
On ne pourra pas l'acheter sans le en tant que console portable uniquement. Il y aura forcément le Doc Et ce dock là est essentiel pour renvoyer l'image de la Switch vers la télé. En fait, la communication ne se fait pas sans fil. C'est le dock qui permet de renvoyer à la télé. On a aussi eu, alors là c'était des infos officielles. Après, en fuite venant.
Tiens, dans la vidéo, là, on vient de le voir. Tu peux le repasser, Poufi ? Excuse-moi, tu peux continuer.
Pour nos premières,
mais pour les gens, regardez, il y a déjà un accessoire qui vient de vous être montré.
Des sources d'Eurogamer qui ont eux aussi révélé beaucoup d'informations au sujet de la Switch.
Au sujet de l'écran.
Je parle au cours des mois précédents, ils ont révélé plein de trucs. Ouais.
On a visiblement les mêmes.
Les mêmes sources.
On vous l'avait dit.
Les mêmes sources qui avaient dévoilé ces infos sur la Switch auparavant sont revenues à l'assaut et ils leur ont donné des précisions sur l'écran. Donc il s'agirait bien d'un écran 720p, multi-touch, un écran capacitif, donc c'est-à-dire du même type que ceux sur les smartphones, dont les iPhones.
Un écran tactile, quoi.
Et comme c'est un écran capacitif, pas de possibilité d'utiliser de stylet. Et.
6 pouces hein, pour la taille de l'écran.
6,2.
Donc environ 15 cm quoi.
Voilà. Je crois que c'est comme le gamepad en fait.
C'est à peu près la même chose.
Ça. D'accord.
Et alors après, maintenant, la question qui se pose, c'est une fois branché sur le dock, comment simuler l'écran tactile de la Switch sur la télé ? Et d'après Eurogamer, il s'agirait le dock serait équipé d'un capteur infrarouge qui serait aussi sur un des Joy-Con. Et donc, c'est comme ça que tu simulerais l'écran tactile. Mais après, ça, pour l'instant, c'est pas aussi catégorique que la taille de l'écran, etc.
Ça m'a l'air d'un bordel. Bon, en tout cas, on en saura tellement plus. Janvier
peux
prochain.
Vraiment dire,
toi, t'as encore quelque chose à nous dire.
Oui, c'est que il y a encore beaucoup de choses qui n'ont pas été dites sur le.
Ah merci, heureusement que tu es là, Mélouze.
Non, mais sur le hardware à proprement parler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que juste à préciser un prix, une autonomie, des specs et de machin. Je parle de les fonctionnalités que la Switch va permettre de faire. C'est pas fini du tout.
Tu veux dire un truc en plus, non? T'es sûr?
Si vous voulez connaître les 20 jeux, il y a bien plus que 20 jeux en développement, hein. Mais il y en a 20 qu'on peut vous dire, etc. Je vous renvoie où j'ai quelque chose à vous dire. Ouais, ça se dispute, il y a beaucoup d'informations à l'intérieur.
Très bien.
Vous en serez un peu en avance par rapport à janvier.
Bon, bah, ce sera la fin de ce point Switch hebdomadaire. On va passer maintenant au premier thème de la semaine, messieurs, qui concerne la Paris Games Week 2016. Ça y est, elle a ouvert ses portes ce jeudi 20.
Mercredi soir.
Ouais, mercredi pour nous, mais après ce jeudi 27.
Il y avait quand même bien plus de monde que les seuls professionnels. Hein, mercredi
bien
soir.
Bien sûr. Il y avait même du beau monde. On en parlera après, puisque on a l'impression que c'est le nouveau salon de l'agriculture un petit peu pour nos amis politiques.
J'aime beaucoup les jeunes. J'aime beaucoup la technologie. Montrez-moi ce Mario sur PS4,
alors là,
s'il vous plaît.
Je suis désolé, mais pour moi, on peut pas leur en vouloir. C'est-à-dire qu'on leur reprochait les autres années de pas s'intéresser, machin. Maintenant, s'ils viennent, on peut pas leur dire.
Je suis juste légèrement moqueur, mais je ne reproche rien.
Mais c'est très bien qu'ils s'y intéressent, même si c'est un peu fake et compagnie. Bon, bah, c'est pas, je veux dire.
Bah, c'est pas forcément fake.
Il
y a certains qui accompagnaient leurs enfants, d'ailleurs. Mais bref.
Qui demandaient Papa, il est où ton Nintendo ?
Il est pas là.
Donc, jeudi 27 jusqu'au lundi 31 octobre, c'est la fête à Porte de Versailles. Où l'on peut.
C'est la fête à la Porte de Versailles.
Bah attends, je le fais avec le ton un peu M6 là. C'est la fête à la Porte de Versailles.
Bernard de la ville à dire.
Bravo. Qui sont-ils ?
Qui sont, voilà.
Quels sont leurs réseaux ?
Bon, écoutez, je suis en France, je fais ce que je veux. Laissez-moi un petit peu tranquille, messieurs. Donc, la Paris Games Week, on a été voir ça le mercredi soir dans la soirée d'ouverture. On a d'ailleurs pas mal d'impressions qui sont déjà parues sur divers jeux, sur même le stand Made in France que je vous conseille d'aller voir parce qu'il y a pas mal de belles petites expériences à y faire. Qu'est-ce qu'on retient de notre passage dans les travées de la Paris Games Week, de l'absence de Nintendo par exemple, de la taille des différents stands, de... Est-ce qu'il y a vraiment des nouveautés et est-ce que ça nous concerne ?
Je pense qu'il serait
les journalistes.
Ingrat, injuste et non professionnel de dire que la Gamescom est un salon qui médiatiquement a de moins en moins d'importance, mais c'est très bien pour les joueurs, et de ne rien dire de la même manière pour cette Paris Games Week, en tout cas édition 2016. C'est-à-dire que oui, en 2015, comme on l'avait espéré et comme ça s'est produit, il y a eu une conférence PlayStation, en l'occurrence, qui a médiatisé l'événement très fortement. Il y avait des avant-premières de jeux, de nombreuses, bon, beaucoup chez Sony, mais pas que. Et ce qui fait que l'édition 2015 de la Paris Games Week avait un début de petite allure de vrai salon international et non pas juste de salon national à destination des joueurs. Et une fois de plus, c'est pas péjoratif du tout. Cette année, on est revenu non pas à la version 2014, mais à mon sens, à presque l'une des pires éditions de la Paris Games Week, dans le sens où il n'y a pas Nintendo. Je veux dire, c'est un acteur majeur dans le monde et en France. Quand tu as un acteur, un des trois constructeurs qui n'est pas présent dans ton salon, de suite quand même, ça tire un peu la gueule. Alors je suis conscient que Nintendo a clairement autre chose à faire en ce moment. Il n'a pas grand chose sur 3DS et Wii U, ok, c'est un fait, et qui seront évidemment probablement là l'année prochaine. Mais enfin, en l'occurrence, tes joueurs, tu veux voir un peu les trucs Nintendo, bah il y a pas. Mais on aurait pu imaginer qu'il y ait le Zelda Breath of the Wild.
On aurait pu imaginer que comme les années précédentes, il y a des tournois sur Splatoon, bien sur sûr. Smash Bros, sur Mario Kart.
C'est quand même des trucs qui marchent à chaque fois. Ils sont bien allés à l'E3 avec un seul jeu Zelda, ils auraient pu faire la même chose. Surtout que le stand était magnifique, ils auraient pu le réutiliser. Et tout.
Sachant que la Paris Games Week est un salon pour le grand public. Sur lequel sont exposés énormément de jeux qui sont déjà sortis, dont certains absolument. Depuis plus d'un mois, c'était pas du tout fou de voir un Nintendo avec une même ne serait-ce qu'une présentation sur grand écran de Zelda, avec des bornes 3DS, avec les jeux qui arrivent en début d'année prochaine ou ceux de cette fin d'année sur 3DS,
et même le trailer de la Switch, tu vois, qui tourne en vidéo pour dire regardez, il y a ça qui va arriver en 2017, venez en parler avec nous, etc.
Et Nintendo,
quoi, c'était pas difficile.
Nintendo a ce qu'on appelle des jeux, c'est particulièrement fort chez Nintendo, les jeux evergreen, des jeux qui n'ont pas de date finalement, parce qu'ils continuent de se vendre sur la longue durée. Et c'est pas du tout fou sur certaines bornes de mettre un Mario Kart ou un Splatoon.
Ils ont Pokémon Soleil et Lune qui arrivent
en plus,
là dans 15 jours.
Alors là, en termes de gros jeux, tu peux difficilement faire plus massif en termes d'impact qu'un nouveau RPG Pokémon. Donc oui.
C'est quand même très décevant qu'il n'y ait pas Nintendo, même si ça se comprend. C'est très décevant. Bon. Et après, sur les autres stands, moi j'ai trouvé qu'en plus la déco est quand même. Il y en a qui ont fait des petits efforts, Ubisoft, Bandai Namco.
Je parlais du stand Made in France qui est enfin bien représenté.
Pas la teuf non plus quand même.
Non,
mais... Et bon, quand t'es joueur, moi je serais entre guillemets juste joueur. Je suis évidemment joueur, mais on a la chance, vous le savez quand même, de pouvoir aller jouer en avant-première, etc. Je serais juste joueur, moi j'irais à la Paris Games Week parce que t'as quand
évidemment.
Même plein de jeux à essayer. On parle de FF, il est super attendu, il est à la fois sur Xbox One, sur PS4. Il y a eu les annonces énormes le jeudi sur FF15.
Bon, absolument.
Voilà. Pour moi, Square, en gros, ils ont fait le job. Ils ont vraiment apporté à la Paris Games Week un gros truc. Mais les autres, tu vois, la PS4 Pro par exemple, elle sort quand même dans
moins de 15
jours.
Ouais.
Voilà. Elle est présentée dans un théâtre, donc ça veut dire que vous pouvez voir Horizon sur la version PS4.
Alors ça, elle est invisible. Hein,
sinon. Mais sinon, on ne peut pas y jouer. À 15 jours du lancement, c'est dommage quand même. Tu pourrais imaginer qu'on puisse y jouer.
Bah, tu vois, Killing Floor 2, moi j'ai pu y jouer sur PS4 Pro, mais là pour le coup, c'était un des rares stands sur lesquels il y avait des petits box comme à l'E3 où tu avais le droit à des présentations behind closed doors pour les médias.
Core Media fait le job.
Ouais, Core Media, là pour le coup, j'avais vraiment l'impression d'être un salon pro et c'est les seuls. Mais c'est dommage.
C'est finalement les médias généralistes plus qui en pâtissent que les médias, on va dire, généraux. Pas généraliste, pardon, les médias spécialistes, c'est les médias spécialistes qui en pâtissent le plus.
Bah, disons
parce
qu'on n'a pas grand-chose à dire de nouveau, quoi.
Ouais,
que toutes les versions qu'on a vues, on les avait déjà vues, etc. Donc, on vous en reparle au cas où vous n'auriez pas vu nos impressions de l'E3, du TGS ou autre, ou de la Gamescom. Mais en vrai, c'est tout. Alors... qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, qu'on tourne dans la Paris Games Week et qu'on vous dise
bonjour,
faire
nous-mêmes
vous a croisé certains et on vous
qu'on aille faire nous-mêmes les tournois Battlefield 1 ou FIFA et puis qu'on mette des volets à tout le monde, quoi.
Bah,
ça serait pas mal, non?
Je pense sur le stand Microsoft par exemple, il y avait Halo Wars 2 qui était jouable aussi bien sur PC, donc je parle pour le grand public, hein.
Ouais.
Halo Wars 2 qui est jouable sur PC, Xbox,
c'est la première fois, non,
qui est pas encore sorti dans un salon, je pense,
il me semble aussi,
donc ça c'est cool. Cuphead qui avait déjà été jouable par le passé, mais là la nouvelle version jouable aussi en avant-première, Dead Rising 4 jouable aussi, donc il y a quand même quelques petites avant-premières pour le grand public, hein, donc ça c'est
mais elles
c'est
sont
cool.
Peut-être trop rares par rapport à ce que nous on voudrait attendre
en tant que professionnel
d'un salon de ce calibre.
Il y en a encore moins qu'à la Gamescom qui est déjà Davis mais façon, donc
Tu regardes. Bon, après c'est vrai que là pour le coup toute l'équipe était là-bas, donc forcément quand on est si nombreux on se répartit les présentations, donc au final ça va beaucoup plus vite. Mais un salon comme le 3, on y est 3 jours entiers. À la Gamescom c'est
au
minimum,
on voit pas tout,
vous y êtes 2 jours ou 3 jours aussi.
T'as même un salon professionnel à l'intérieur du salon où tu fais tous les rendez-vous, donc c'est
donc tu vois, admettons qu'on y était allé au même nombre qu'on va à la, comment dire, à l'E3 ou à la Gamescom, c'est-à-dire à 3 de journalistes et un cadreur,
on aurait fait
très vite le tour de la Paris Games Week.
Oui, et puis
c'est que des trucs que t'as déjà vu, il n'y a aucune plus-value.
On s'est même posé la question, en vrai, pour être transparent avec vous, est-ce qu'on fait même des impressions? Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Alors si, il y a eu 4-5 présentations chez Core Media, il y a eu un ou deux trucs chez Xbox qui étaient nouveaux, puis c'est tout. Mais vraiment, c'est tout.
Quasiment.
Alors, on s'est dit, on va le refaire quand même aussi, parce que vous avez peut-être pas vu toutes nos impressions. Donc
et puis, c'est intéressant pour vous de savoir ce qu'on peut voir d'intéressant.
Oui,
sur
puis
le
voir
salon,
les travées en elles-mêmes, voir l'agencement un peu du salon, etc. C'est toujours intéressant pour le public qui va voir ça, qui va se dire, ah, ça va se passer comme ça.
Et je tiens à être clair, ce n'est pas dénigrer le salon en lui-même. Même s'il a un côté un peu kermesse qui c'est très subjectif, mais parfois peut faire un peu bon, ok.
Ça c'est quand enfin, c'est un salon ouvert au
pareil, voilà. Mmh. Au TGS et la marée humaine aussi, donc bon, bref. Donc quand on est, enfin pour les joueurs, pour les consommateurs qui n'ont pas la chance d'être au contact avec l'industrie au quotidien
et qui n'ont pas les bourses non plus pour acheter tous les jeux qui sont déjà sortis.
Exactement.
Et auxquels ils peuvent
c'est
aller
très bien,
jouer.
Même s'il y a quand même beaucoup de monde et qu'il faut vraiment que vous choisissiez vos files d'attente.
Puis que vous arriviez bien à 8h30 du matin, c'est une demi-heure avant l'ouverture des portes pour être sûr de passer.
Mais pour les médias, bah, une fois de plus, si les organisateurs de la Paris Games Week souhaitent une couverture, on va dire... autre que des meet and greets, de dire on a rencontré un tel, on fait des dédicaces ou on a un canapé et c'est très bien, hein, on rêverait de le faire pour être tout à fait franc, hein, sur place et on peut mettre des équipes et qui font des débats, etc. Je veux dire, c'est cool de le faire à la Paris Games Week, mais en fait, on peut les faire aussi ici, ça change rien du tout, hormis la possibilité de vous voir. Mais aujourd'hui, Gameblog n'a pas la capacité d'avoir à la fois des équipes ici à la rédaction qui font des news et font vivre le site et à la fois des équipes entières sur le salon. Donc à un moment, nous, on choisit de travailler aussi pour vous et de vous donner le max et des rencontres. Il y en a plein possibles avec les abonnements premium par exemple. Et on en fait de plus en plus puisqu'on vous fait venir maintenant à la rédaction pour tester. On essaye au plus, mais c'est pas toujours possible, mais des jeux en avant-première ou des machines en avant-première. On va essayer à chaque fois de le faire avec les grosses sorties ou des sorties qu'on sent qui vous intéressent. Donc voilà,
c'est bien d'avoir des ressentis de nos lecteurs aussi d'ailleurs. Hein, sur,
tout à fait. Ouais.
Notamment sur le PlayStation VR récemment, ouais. Où ils étaient tous ravis. Ouais. Et bon, on leur a filé un sac à vomi quand même, mais ils étaient ravis.
Mais ils l'ont pas utilisé a priori.
Bon, après on parle du rayonnement auprès de la presse spécialisée, donc, mais au niveau généraliste ça marche bien puisque à peu près tous les grands médias y vont, d'autant que l'e-sport qui est bien représenté à la Paris Games Week commence à exploser, que toutes les chaînes s'y mettent.
Cette année c'est plus e-sport que jamais, hein.
Oui,
là vraiment t'as l'impression qu'il y a que ça, hein. C'est très très important là-bas,
sur le salon. En tout cas.
Bah oui, oui. Et puis ne serait-ce que les gens qu'on a croisés, les booth stands dédiés uniquement à ça, à droite à gauche, le grand stand de
l'SWC, comme tous les ans, qui fait sa grande finale à la Paris Games Week.
Et puis, ça me rappelle exactement quand les chaînes de télé et les médias généralistes ont découvert le poker. Un jour, ils ont fait « Oh putain, il y a le poker, génial !» Et il y a 12 émissions, 50 papiers, des magazines créés dans tous les sens. 2 ans après, il n'y avait quasiment presque plus rien. Je souhaite absolument passer à l'e-sport et je suis persuadé que l'e-sport est infiniment plus pérenne, médiatiquement parlant, que le poker. Mais là, on est clairement dans l'ascension d'un truc que les grands médias découvrent. Et là, c'est la river. Quoi.
C'est et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a autant de personnalités politiques qui sont venues, outre les deux ministres évidemment, que sont Mme Azoulay et Mme Le Maire.
Puis t'as pas échappé que c'est la dernière fois avant une élection présidentielle qu'ils peuvent se présenter aussi, se montrer que les jeunes, c'est quand même des gens qui peuvent voter potentiellement.
Absolument.
Et que, bon, voilà. Après, je trouve ça très bien. Et pour moi... on s'en moquerait ou on les pointerait du doigt s'ils venaient pas, et quand ils venaient pas on le disait, donc bah, s'ils viennent c'est déjà une très belle initiative, espérons qu'il en ressorte quelque chose de positif. Les deux ministres sont venus chacune avec des éléments constructifs pour l'industrie du jeu vidéo français, de l'argent, etc. Donc c'est très bien. Et
bon, est-ce qu'elles seront encore là l'année prochaine pour ça? C'est une autre histoire.
Il y a virtuellement quasiment aucune chance même.
Voilà, le débat politique va commencer maintenant.
Non, mais même si leur président actuel est réélu, il y a souvent des changements au ministère.
Des turnovers, donc, absolument. Donc
après,
finalement,
ils peuvent revenir en tant que fan, hein, genre. Moi, absolument. J'aime le jeu, donc
comme nous avons eu l'occasion,
je sais qu'elle joue avec ses enfants.
Comme
et
nous
tout,
avons eu l'occasion à la soirée de démonstration du PlayStation VR de croiser Madame Fleur Pellerin,
qui
était avec
avec sa petite fille. Enfin, une fan de jeux vidéo, je sais pas, mais en tout cas, elle aime ça l'intrigue.
On l'a vu. Moi, je l'ai vu jouer
elle
à Farpoint.
Elle faisait la queue pour jouer à tous les jeux possibles.
Tu sais qu'en interne, dans les ministères, etc., dans le gouvernement et tout, et d'ailleurs, elle le vivait pas forcément super bien. C'était pour eux très péjoratif, mais ils l'appelaient la
ministre
du
jeu vidéo.
Oui.
Ouais. C'était péjoratif.
Et c'est pour eux, c'était
pour
péjoratif.
Eux, c'est péjoratif. Pour nous, c'est au contraire.
Et parce que vraiment, elle s'intéressait aux médias et elle a fait du bien à l'industrie du jeu vidéo français, c'est sûr.
Je pense que dans la vidéo du petit journal, s'il y avait une console dans son bureau, elle aurait pu savoir à quoi ça servait.
Ça oui. Ça oui.
Le reste, non.
Le reste, moi, mais.
Je trouve que c'est pas sympa pour elle. Bon, bref, on va passer au deuxième thème, mais peut-être que je vais peut-être vous demander d'abord votre avis général maintenant. Pour conclure cette partie
sur la primaire de la droite.
Non, non, sur la Paris. Oui, sur la primaire de la droite, absolument. Qui a gagné le débat d'après? Non, la Paris Games Week. Oui, non. Tu irais avec tes enfants?
Ça dépend de
non. Non. Enfin, le jour avant l'ouverture, là, oui.
Oui, mais sinon, pendant.
Une fois que c'est ouvert, non.
D'accord, Julien. Tu irais avec Epona ?
Avec Epona, non, j'ai pas envie de lui faire vivre ça. Mais non, mais j'aurais des enfants, ça dépendrait de leur âge en fait.
Ouais.
S'ils sont trop petits, non, clairement pas. Quoi. Je vais pas me ramener avec une poussette et tout là-dedans. Il y a quand même beaucoup de bruit, de sueur, d'odeur, et puis enfin de lumière.
Ajoutez à ça le bruit et l'odeur.
mais en revanche, s'ils étaient ados et qu'ils aiment le jeu vidéo, évidemment oui.
Ouais, d'ailleurs, ils iraient même sans notre permission.
Tu irais avec Yamcha ?
Il y a différents cas de figure en fait. Si je suis dans la presse jeux vidéo avec mes enfants. Oui, j'y vais le mercredi comme Julo. Ouais. Si je suis père de famille, mais pas dans la presse jeux vidéo et que mes enfants le demandent, je pense que j'y vais aussi.
C'est comme Disneyland,
mais
tu y vas,
moins.
Quoi.
Avec moins d'entrain que si je peux y aller le mercredi
soir. Et en tant que joueur, si vous étiez des joueurs,
j'irais au Super Game Show, etc. Voilà, où il y avait moins de trucs. Ouais. Donc moi j'irais grave.
Moi j'allais au festival du jeu vidéo, j'allais au Micromania Game Show et tout.
J'aurais
tout
trop
là,
envie
je
de rencontrer les mecs que je vois sur YouTube, là, les streamers et machin, d'avoir une dédicace. Ouais, bien sûr que j'irais. Moi je trouve ça super. Pour moi, c'est pas du tout. Nous on parle là du côté média,
mais niveau consommateur,
c'est pendant 5 jours, il faut s'armer un peu de temps et d'énergie. Plein de trucs.
C'est tout bête, hein. Moi avant que je sois dans la presse jeux vidéo, mon rêve c'était d'aller à l'E3, tu vois, parce que je voyais chaque année dans les magazines l'E3, etc.
On sait que t'as eu le meilleur E3 de tous les temps, c'est bon,
à la Paris Games Week, quand j'allais au Micromania Game Show, truc comme ça, rien que le fait de rentrer et de voir ces stands gigantesques avec les affiches, les noms de constructeurs, les grosses affiches des jeux, rien que ça, moi ça me faisait rêver. Donc évidemment que si j'étais joueur lambda, entre guillemets, j'irais à la Paris Games Week, évidemment.
Très bien. Eh bien, écoutez, monsieur, du coup, on va passer au deuxième thème de la semaine. Le deuxième thème, qui d'ailleurs a eu droit à une belle exposition durant la Paris Games Week, puisqu'il s'agit de Final Fantasy XV. Alors, Final Fantasy XV, on a un peu la totale en ce moment. Hein. Il y a quand même Hajime Tabata qui est passé à la rédaction. Ouais. Évidemment, j'étais pas là à ce moment-là. Merci.
Merci plus.
Qui nous a d'ailleurs.
Si t'avais été là, on l'aurait pas eu.
Passé, tu dis passé. Non, il a passé l'après-midi ici.
C'est vrai, il paraît qu'il est devenu super pote avec vous.
Non, maintenant, mais il a sorti le menu pour commander à manger le soir et tout. Il a dit non, là, maintenant, il faut qu'on y aille.
Les gens vont le croire.
Il paraît que vous l'appelez Tabi. Bon, bref. Donc, le jeu qui vient de passer Gold a eu droit donc à une nouvelle présentation durant la Paris Games Week. On a pu voir encore des éléments de gameplay. On a pu voir aussi une séquence
Omen.
En images de synthèse Omen, absolument
merveilleuse,
époustouflante, faite par Digic. Donc, si vous voyez toutes les
Digic Pictures,
toutes les cinématiques en images de synthèse de The Witcher 3, c'était eux. Donc, c'est des mecs qui touche à mort dans
c'est
ce côté-là.
C'est une séquence qui est pas dans le jeu, hein, faut le dire.
Oui, oui. C'est totalement cinématique.
C'est du matériel promotionnel.
Exactement. Donc, il y a eu pas mal de petites infos, encore une fois. Hein,
moi, je crois qu'on m'a entendu depuis 15 000 ans sur FF15. J'ai dit dans tous les sens que j'en pensais, que ça s'améliorait, machin. Moi, je pense que Julo, par exemple, qui s'est moins exprimé sur le sujet et qui a regardé bien le live, sera intéressant de savoir ce qu'il en
alors
pense.
Effectivement, j'ai regardé le live. Je trouve que s'il y a eu un truc fort vraiment au Paris Games Week, enfin en tout cas jusqu'à maintenant, c'est bien ça. Effectivement, ils ont pris le truc au sérieux. Et ce qu'ils ont montré à des gens comme Monsieur Tout-le-Monde qui était là devant leur stand ou derrière leur écran sur Gameblog ou autre en train de regarder cette présentation, bah, ils ont eu quelque chose de vraiment appétissant. Quoi. Moi, je trouve que tout ce qu'ils nous ont montré. Enfin, déjà, je voudrais dire un truc, et c'est pas que suite au passage de Tabata à la rédaction, c'est d'une manière générale dans la communication que lui il a et que tout le monde, enfin tout ce qui
s'articule autour de FF15.
Voilà. Et il y a un truc positif, je trouve. Il y a une énergie positive dans ce jeu qui est dingue en fait. Et d'ailleurs, Tabata en parle dans des interviews à venir sur Gameblog. Ils ont été transparents, francs. Et c'est vrai que ce jeu, quand même, rappelle-toi Julien, on l'a vu au TGS quand il s'appelait FF versus 13, on avait fait une vidéo en disant waouh, c'est de la merde, tellement c'est moche. Et depuis, il s'est passé combien d'années ?
10 ans.
Et faut dire que les 2-3 dernières années, là, il y a eu quelque chose de véritablement positif dans la façon dont ils ont communiqué, enfin depuis que Tabata est là. Et cette franchise qu'ils ont à montrer les choses, à organiser des événements, vous vous souvenez pour la date de sortie, et juste après dire que finalement ce serait en retard. Parce
mais ça
que
concerne peut-être même Final Fantasy dans son ensemble.
Ça, c'était
hein.
couillu, ça quand même.
C'était vraiment couillu.
Ça, je pense qu'on a. Enfin,
bah ça, il le dit aussi dans une interview à venir. Il a dit que c'était un moment très, très, très difficile.
T'imagines les millions qui ont été dépensés pour faire Uncover d'à Los
mais,
Angeles.
Mais si tu veux Square
derrière,
Enix,
tu fais, en fait, ça sera
Square Enix l'a autorisé à faire ça. C'est-à-dire que pour lui-même, ça a dû être une décision compliquée, mais Square Enix a validé le truc. Donc t'as l'impression qu'après avoir été très désorienté par tout ce qui s'est passé avec ce projet, ils ont voulu mettre vraiment les petits plats dans les grands et faire quelque chose qui allait vraiment satisfaire tout le monde. Et je trouve que justement cette présentation de gameplay à la Paris Games Week, il y avait donc une bonne ambiance avec Nasu, il s'appelle, c'est ça, le démonstrateur, et le gameplay qu'ils ont montré est ultra rassurant pour les fans de Final Fantasy qu'on est, vous et nous, retrouver donc c'était ce grand monde ouvert dans lequel on va pouvoir se déplacer librement, qui est tout simplement gigantesque. Ce sens de l'aventure qui est palpable en fait dans toutes les séquences qu'ils ont montrées est ultra appétissant. Le jeu est magnifique, j'adore le style en fait, par exemple ce principe de personnage qui se téléporte un petit peu là, avec ses ombres bleutées.
Oui, en lançant leurs armes ils peuvent effectivement atteindre leur arme en se téléportant.
C'est un jeu, voilà, on voit les trois personnages, trois des quatre personnages, voilà. Il y a le sens de l'amitié aussi, quelque chose d'important dans les RPG, dans les Final Fantasy en particulier, la notion de groupe, d'aventure, donc
gigantisme, de
dictature. Gigantisme, voilà. Pour en moi fait, joue ouais. beaucoup dans voilà. ce sens de l'aventure.
On retrouve ce qu'on avait dans les anciens Final Fantasy, l'impression d'être dans un monde gigantesque et de pouvoir se déplacer. Ça, c'est génial. Le système de combat me fait un peu peur, cela dit, parce que c'était bordélique durant la démo et pourtant alors, c'est le démonstrateur
pour
officiel.
Pour y avoir joué beaucoup, il n'a cessé de progresser. Les caméras, en vrai, quand tu, c'est toujours pareil, quand tu vois quelqu'un jouer, en fait, tu ne vois que les défauts, entre guillemets. Ouais. Mais quand c'est toi qui es en contrôle, tu sais que là, t'es de là et que donc tu peux t'en sortir en tout genre. Mais je te dis pas que c'est parfait.
Ouais. Ouais. Et puis, mais cela dit, je suis content qu'il y ait un système comme ça, dynamique, parce qu'il faut changer les choses. Il faut garder, il y a la nostalgie du grand monde ouvert, etc.
Il y a les deux. Ça veut dire que
tu peux mettre en pause.
Tu peux mettre en pause. Ouais, tu vas dans les menus et il y a un mode. Entre guillemets à l'ancienne, si toi tu veux genre un coup ça freeze et je prends ta décision et le machin, tu peux aussi faire. Ils ont fait un jeu entre guillemets intelligent, genre ils vous laissent le choix
à la carte.
À la carte.
Et non mais ils partagent un petit peu cette qualité qu'a Persona 5 qu'on a testé en import, qui revisite totalement les codes de la partie action combat du RPG. Voilà, là aussi on a une offre qui est vraiment différente, ça a de la gueule, ça a la pêche, je sais pas, j'ai vraiment envie de me lancer dans l'aventure.
Et l'univers a l'air vraiment fantastique, hein. En ayant vu Kingsglaive au cinéma et en regardant un petit peu, jetant un œil sur les épisodes en dessin animé aussi,
ce qui est génial, c'est qu'il
y a une cohérence et il y a un emprunt à pratiquement tous les Final Fantasy les plus mythiques, que ce soit le 6, le 7, on a l'impression que ils ont voulu vraiment dans le passé faire quelque chose de moderne et du coup ça marche quoi.
Ce que je trouve formidable, c'est que ça marche justement parce que quelque part c'est assez contradictoire, parce que t'as un univers extrêmement réaliste, on met de l'essence dans sa voiture. Alors déjà il y a un côté rétro-futuriste, dans la tronche de la voiture, etc.
Il y a même vu un côté Shenmue, je crois.
Ouais, il y a un vrai côté Shenmue, moi je trouve, la carte de commande.
Et là j'ai peur pour FF15.
Ouais, non mais vraiment, il y a un vrai côté Shenmue.
Julo commence à aimer le jeu, on n'est pas mal.
Non mais t'as vraiment une contradiction dans cet univers extrêmement réaliste et le côté fantasy total avec des monstres géants, des machins, et en fait ça marche quoi. Enfin,
moi c'est un des éléments qui me plaît le plus avec le jeu, alors que je suis resté quand même vachement à l'écart de Final Fantasy jusqu'à présent, et celui-là me fait extrêmement envie.
Ça rend l'univers unique, beaucoup plus que tous les autres Final Fantasy qu'il y a eu avant.
Je pense vraiment
pas que le 6
jouer des heures
non,
et des
c'est
heures
unique, moi je trouve vraiment que non.
Ça va être déroutant, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être perturbés par ça parce que c'est très différent des autres FF, et j'irai même plus loin, c'est très différent globalement de ce qui se fait dans le jeu vidéo quoi. Vous verrez le tempo, le rythme, en tout cas dans les premières heures, et il est pas super dynamique, il se passe mais bon, à la fois vous allez faire d'autres trucs, les différents personnages vont commencer à se dévoiler, vous allez mieux comprendre les liens qui les unissent, effectivement vous allez faire des trucs qui pour un occidental est peut-être un peu con, mais manger, faire vos plats, dormir, ouais, très Shenmue, ouais. Donc il faut aimer ça, si vous êtes réfractaire, il est possible.
Ils ont laissé le choix aussi, ça j'ai trouvé ça bien, il expliquait ça dans donc la dimension exploration du jeu. En gros, vous débloquez un objectif, il faut aller à tel endroit, donc il faut prendre la voiture pour y aller, et on peut y aller manuellement, c'est-à-dire en conduisant soi-même la voiture, ou décider que le jeu conduise la voiture pour vous. Et tu
as toutes les musiques, enfin pas toutes, mais beaucoup de musiques des anciens FF, de FF6,
dans la radio,
de FF7,
dans l'autoradio.
Ouais. Ouais,
ce que j'ai aimé aussi, c'est que les personnages parlent entre eux pendant les combats, pendant l'exploration, dans la voiture. Il y a quelque chose de dynamique dans leur rapport en fait, qui a l'air intéressant. Alors j'espère que ça va pas tourner au rond comme dans un FIFA. Les FIFA rigoler. On ressort toujours les commentaires qui ressortent tout le temps quoi.
Au bout de 10 heures en tout cas, et je l'ai sciemment mis en français.
Ou dans le premier Assassin's Creed, vous vous souvenez, c'est toujours les mêmes commentaires, etc.
Je peux d'ores et déjà vous rassurer, sauf si soudainement il s'est passé un truc de taré en 15 jours, mais c'est pas du tout le cas.
Ouais.
C'est pas du tout le cas, et je trouve que vous avez le choix, voix anglaise, voix japonaise ou voix française. Et moi, je trouve que les voix françaises font complètement le job. Et j'ai pas eu. Alors, c'est. Voilà, il y a des moments, des petites intonations, des trucs où vous faites. Ah, bon.
Chose qu'on a pu voir d'ailleurs dans
le. Mais ça va, franchement, enfin, c'est pas choquant. Ils se sont vraiment investis. C'est pas. Hey, capitaine Noctis. Non, non, c'est pas ça. Non,
mais d'ailleurs,
ils y ont mis du cœur.
On a pu voir d'ailleurs le trailer français, doublé en français, que d'ailleurs ils avaient diffusé quand on a pu aller voir King's Glaive au Grand Rex. Ça passe plutôt bien. Il y a au début, comme tu dis, des intonations où t'as l'impression que c'est.
Pas parfait.
Le volume de la voix ne correspond pas vraiment aux expressions du visage, mais c'est vrai qu'après le reste collait bien. En plus, il y a la voix du doubleur de Sully et de Marcus Fenix, donc forcément, ça va être super.
Bon, en tout cas, c'est presque miraculeux, je trouve, quand même. Donc, d'une part, cette énergie qui se dégage du jeu, qui est vraiment comme l'énergie d'un projet qui a été extrêmement bien mené.
De tout
alors
Final
qu'en fait,
Fantasy,
ça a été chaotique.
De tout Final Fantasy. Regardez le 14, quand on est à la Paris Games Week, il y a encore, et comme à la Gamescom d'ailleurs, et comme à l'E3, il y a une effervescence autour du 14. Un monde fou qui va se diriger, qui se rue vers les bornes de FF14, qui veut savoir ce qui se passe autour du jeu. Tu vois aussi
parce que
le jeu développeur.
Le jeu a été vraiment
sauvé.
Ah, il a été sauvé.
Et c'est pour ça que là, les deux là, ces deux personnalités, j'ai malheureusement, excusez-moi, un trou de mémoire sur le producteur de FF14, qui
le nouveau producteur.
Ouais. Ces deux personnes, donc avec Hajime Tabata, aujourd'hui, elles sont en train d'impulser au sein de Square Enix des nouvelles méthodes de travail, de nouvelles méthodes de communication. Et pour moi, c'est la relève. On en a parlé longtemps, des années.
Mais ils ont carte blanche. Ils donnent l'impression d'avoir carte blanche.
Du déclin des développeurs japonais, qui étaient un peu toujours le même moule, le même modèle, pas très intéressant en interview, pas très bon. Bah, ces mecs-là, ils impulsent autre chose. Vraiment.
Bah, c'est sûr que si tu compares, et là je peux le faire parce que j'ai vu Tabata à l'œuvre ici et j'ai interviewé déjà par le passé Nomura, ça n'a rien à voir.
C'est pas les mêmes. Hein.
Nomura, il te fait la gueule, mais vraiment. En plus, comme t'es occidental, ça le fait chier de te répondre, donc il t'envoie bouler quasiment une question sur deux. C'est pas du tout le même état d'esprit, clairement.
Mais peut-être que tu l'as pas vu dans les bonnes conditions non plus. Ça se trouve, il était enrhumé.
J'ai déjà eu cool. Ouais. Hein. Mais c'est vrai qu'il j'entends qu'il a cette réputation là mais je l'ai déjà eu.
Regardez hein, la photo est sur soit sur mon Twitter soit sur Gameblog.
Non, oui, bah après il sourit peut-être pas beaucoup, mais Kojima Kojima
non, ce que je veux dire c'est que la tête qu'il a sur la photo est très représentative de l'humeur et du comportement qu'il a eu avant.
Bon, écoute, on ne va pas juger un homme sur une journée où il a peut-être arrivé il peut péter un ongle.
Ce que je veux dire c'est que Tabata contre, sur toutes les photos, toutes les vidéos
ouvert.
Que tu le vois, il est toujours souriant, il est assez avenant.
C'est indéniable que Tabata est un meilleur communicant que Nomura.
Voilà, et on espère qu'il se reposera après la sortie des FF15 parce que avec les valoches qu'il a,
ils vont avoir du
faire le tour du monde
parce qu'ils viennent d'annoncer les DLC.
Ah oui, c'est
4 DLC.
Mais c'est pas une autre équipe qui s'en charge.
C'est une autre équipe, mais ils vont pas s'arrêter, Tabata, t'inquiète.
Alors pour le coup, la question What About the DLC est intéressante.
Justifiée.
Ouais. Bah alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a 3 DLC axés sur donc, les personnages de soutien de l'aventure.
En plus de DLC
Gladios, Prompto et Ignis, qui chacun auront leur gameplay spécifique. Prompto, par exemple, apparemment, il sera sur un scooter des neiges, donc ça va être vachement plus action.
Prompto, c'est un des deux qu'on a devant
c'est
nous,
lui,
là, sur la...
c'est le
c'est...
Blanc,
ah, c'est le fragile, c'est... d'accord.
Voilà.
Okay.
Gladios, ce sera le premier DLC, d'ailleurs, c'est plus action avec sa grosse épée, machin. Et il y aura un quatrième DLC qui s'appelle Comrades, les camarades, et qui...
Du multijoueur, non
qui...
c'est ça.
Voilà, du multijoueur en coop. Où en fait bah, tu vas prendre 3 autres potes avec toi et chacun va jouer un des 4 personnages et c'est pas clair encore, j'ai demandé parce qu'on a eu aussi le producteur des DLC qui est venu ici en exclusivité et je lui ai demandé ce sera quoi dans l'aventure principale, ce sera un truc spécifique. Bon, pour l'instant pour être tout à fait clair, je pense que le développement est tout au début hein, donc ça peut encore changer beaucoup.
Patienter, en même
patienter
temps le jeu
peu.
Va être assez long donc,
Mais Tabata nous a aussi confirmé parce que bon, beaucoup de personnes spéculaient etc. Nous on l'avait vu, on vous en avait parlé dès le TGS hein, de la version PS4 Pro parce que vous êtes très nombreux à poser la question. Bah oui, Day One, enfin dès que le jeu va sortir le 29 novembre, la PS4 Pro étant déjà sortie avant, vous aurez la possibilité d'avoir le patch ou le machin, enfin il tournera sur PS4 Pro. Mais ce qu'il a bien précisé, c'est que ça c'est un premier temps. Donc déjà, d'ores et déjà avec des améliorations, celles qu'on a vues au TGS, framerate meilleur, distance d'affichage meilleure, résolution meilleure, HDR et tout. Et je peux vous le dire, je vous ai jamais dit que ça devenait holographique et une révolution à la Pixar, mais c'est clairement plus beau, oui. Mais ils vont continuer encore après, et il est possible qu'il y aura encore... plusieurs mois après, une mise à jour encore PS4 Pro et peut-être même PS...
Pour améliorer encore
parce que ça a l'air d'être taré. Hein.
Donc
il s'arrête jamais.
Faut pas y jouer tout de suite en fait.
C'est un peu ce que je disais, mais en fait, ça va venir par autre chose aussi.
Et dans un
peut-être
an et demi,
il y aura encore d'autres choses en plus.
Dans un an et demi, FF15-2, dans 3 ans et demi, FF15-3. Square Enix a déjà fait des trucs comme ça, donc ça serait pas.
C'est tout à fait possible. Hein. Un univers comme ça mérite en tout cas, peut-être plus que celui encore d'FF10 d'être exploré.
Bon, enfin, là, vu le côté 4 amis dans la voiture qui partent à l'aventure ensemble, la coop en ligne à 4 semblait tomber sous le sens. Tu vois,
moi, vous savez ce que j'aimerais ? J'aimerais une préquelle avec le papa, Régis. Parce que putain, bah, il a
existe,
de ses classes,
c'est
hein.
C'est le film et
ouais,
la,
moi,
et la série.
Je veux en jeu, moi je veux en jeu.
Ouais. Bah, voilà, ça sera bon. FF15-Régis.
Voilà. FF15-Régis, oh putain. Bon, là j'ai un truc dans la tête. Là.
Chez, nous,
chez nous, ça passera bien avec tous les sketchs des nuls. Enfin bon, bref, on aura compris qu'FF15, c'est.
Quand tu vois ces images-là, pour moi, c'est.
Ça a l'air vraiment de tirer ses
promesses. C'est ce que j'avais envie, en fait, de Shadow of the Colossus.
Ouais. De voir un Léviathan au loin.
Exactement. Mais vraiment pas avec une cinématique. Ça veut dire que si vous avez vu la présentation là, pendant la Paris Games Week, ils ont montré l'espèce de serpent qui était un des boss de FF7. Mm-hmm. Mais tu le vois à 12 000 mètres et il est là en train de se dresser. Il fait, je sais pas, 20 mètres, 30 mètres, et tu sens ce gigantisme. Bah, moi, c'était honnêtement, regarde le titan. C'est pas là, c'est pas une cinématique, hein. Tu joues, etc. Alors, ah c'est ouais. Des cutscenes, machin, mais après, quand tu reprends la main, il est devant toi et il est là, quoi.
Il y a plus qu'à croiser les doigts, les mecs, pour pas qu'on
regarde
soit,
ça, regarde ça,
pour pas qu'on soit déçu. Hein.
Moi, j'y crois à fond.
On a envie
et je pense
croire,
qu'on y croit à peu près tous.
Bah, le test, mine de rien, ça va être bientôt. Hein,
ouais, 29 novembre, la sortie du jeu, c'est ça. Hein.
Oui, bah, c'est
regarde
ça, c'est genre dans moins d'un mois.
Rien que la voiture qui décolle. Le retrouver un.
Bah ça, aura, c'est vrai qu'il y aura des courses de chocobo aussi.
Tout de suite,
oh là là, il y aura des courses de chocobo.
Mais d'ailleurs. Quoi, la voiture qui décolle ?
Ah non, c'est,
bah
pas,
non, c'est pas au début du jeu, mais
ah
comme
non.
Dans tous les autres
oui,
FF.
Bien sûr, oui.
Tu dois avoir le véhicule volant.
À la fin.
Voilà, ou à la moitié. Ou autre.
La mise en scène, c'est quelque chose.
On oublie aussi qu'il y a eu une vidéo sur les Moogle. Hein. Maintenant, on sait à quoi servent les Moogle. Ça, c'est des pluches qu'on lance comme ça. C'est des leurres. Et du coup, ça fait peur à tout le monde, à tous les ennemis quasiment, et qui vont les agresser jusqu'à ce qu'ils les détruisent. J'ai toujours. Je n'ai pas compris pourquoi les Moogle en particulier attiraient l'attention. À mon avis,
regarde.
Ah putain, bah c'est dommage.
Il doit y avoir
moi
un truc.
Je l'ai vu cette scène en vrai. Quand t'as le titan qui arrive au fin fond et tout.
Tu te dis pas qu'il y a un truc avec les Moogle quand même. Parce que pour que ça génère à ce point là la crainte chez les ennemis.
Ce que je peux vous dire, parce que ça je le sais, ouais. Je l'ai vu. C'est que les invoques, il y a un système un peu particulier cette fois-ci. C'est vous les appelez pas. C'est pas genre, oh, je suis dans la merde, j'appelle mon invoque. Non, non. Ils ont leur personnalité propre. Et en fait, chacun a, genre, il y a un peu l'invoque, un peu de soutien, l'invoque d'attaque, l'invoque machin. Et en fonction de la situation du groupe, de manière, je dirais pas aléatoire, parce que ça, c'est pas très clair, mais quasi,
il viendra
bim,
au fil
il se déclenche. En fait, le but, c'est de vous surprendre. C'est-à-dire que c'était comme dans la démo, je sais pas si vous vous rappelez, où il y a eu la première fois, on a vu Ramu.
De ce qu'il y a eu dans,
en fait,
qu'il
tu te bats,
Ramu,
tu te bats, ouais. Tu te bats, tout d'un coup, ça dézoome, et là, tu vois le truc et tu fais waouh, il est là, quoi. Et bah, ça va se reproduire là, comme ça.
Oh là là.
Donc en plus, t'auras ce côté,
c'est
je suis en train de me
battre. C'est un système comme les Gambits de
FF12,
non,
ça, non.
C'est un truc que j'avais trouvé génial dans FF12, c'est les Gambits. Vous avez joué à FF12?
Il n'y a pas du
Couscous Gambit, non?
Ouais, c'est ça, ouais.
Ouais.
Non. Par contre, tes potes et tout, tu leur donnes des ordres, etc. Tu leur fais faire des trucs.
Bon.
En chargeant une jauge.
Assez parlé d'FF15.
Bon, ça a l'air pire.
On en parlera suffisamment quand il va s'approcher de la rédaction et qu'on lancera le test. Et on verra d'ailleurs si, comparé à Persona 5, que Rudy n'arrête pas de me. Ouais,
Je pense que c'est pas la même ampleur de projet quand même.
Oui, mais. Oui, alors, oui, mais. T'as raison. Mais par contre, il y a vraiment. Enfin, je veux dire, Persona 5, c'est un truc de dingue. Hein. Artistiquement.
Ah non, mais c'était pas une critique sur la qualité.
Bien sûr.
Non,
mais même. En termes
oui,
de, taille
de
projet. Termes de budget, etc.
Ouais,
c'est
mais
pas la
en termes de volume de jeu et en termes d'aspect monumental,
de nouvelles idées,
etc.
Ça, c'est hallucinant.
Le match de l'année,
il y aura sûrement
RPG.
Un match.
Non, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a presque quelque chose qui les rapproche. C'est ce côté. Les ados, tu vois, dans Persona, t'es à l'école, tu passes dans un monde beaucoup plus fantastique. Tu passes du réel au fantastique tout le temps.
Ouais, alors que là t'es un ado et t'es en voiture
et tu passes du réel
au fantastique
c'est incroyable, la fantasy quoi.
Et donc là dans les jours à venir on va essayer de vous mettre les différentes interviews. Il y en a 3 de Hajime Tabata, elles sont 3 toutes différentes. Vous verrez, il a répondu à plein de choses et
sans langue de bois.
Ouais,
d'après ce que
vous allez
compris.
Voir, c'est assez intéressant.
Et puis aussi surtout le concours, parce qu'on a un petit concours super sympa.
Alors, tiens,
je vais
montrer à la caméra.
Un concours de ouf, j'ai envie de dire. Oh là, t'as fait tomber le fragile, attention.
Ça, c'est vrai que c'est un concours
pour nos premiums, hein,
oui.
qui nous aide,
donc bah forcément,
qui
vous
permet de gagner combien de jaquettes Xbox One et
10 jaquettes PS4 Xbox One et 17 jaquettes PS4, donc c'est les jaquettes, hein. On va vous envoyer la jaquette que vous pourrez mettre dans votre jeu.
Oui, pas le jeu.
Exactement, mais elles sont toutes dédicacées par Hajime Tabata lors de sa venue à Paris, ici, chez
et
nous.
Et si vous voulez prouver à vos potes que c'est bien lui qui a signé, il y a la vidéo sur le site. Ouais. Nous, on a tous, quasiment tous posté des photos sur Twitter d'Hajime Tabata en train de signer. Moi,
même
j'ai
pas pensé au fait que des gens puissent penser que c'était nous.
Ah, mais faut authentifier maintenant. Tu mets sur
eBay. Moi, je peux vous dire que j'étais à côté. J'ai vu le stylo fuir sur son bras et
sur la table aussi.
Et sur la table aussi.
D'ailleurs, on sait qu'il y a Ed Irrité du truc signé avec le stylo qui fuit, hein, n'est-ce pas? Ouais, c'est pour moi, j'ai pas fait exprès.
La jaquette de plume est doublement collector parce qu'il y a la grosse tache de peinture dessus.
Oui, non, puis même c'est pas très grave, hein. Moi, mais je suis, de toute façon, je l'ai loupé, donc c'est tant mieux pour moi.
Donc voilà, concours pour nos membres premium, plein de versions pour la Xbox One et plein de versions pour la PS4.
Exactement. Et on va finir ce podcast.
Ça continue jusqu'au 27 novembre, donc vous avez le temps, mais allez-y quoi.
Voilà, vous pourrez avoir acheté le jeu juste avant et faire l'échange deux jours plus tard. Ce sera parfait. Dernier thème de ce podcast.
Oui.
Un jeu avec Sangoku.
Hi.
Attends, j'essaie de provoquer autre chose pour que vous répondiez. Vous avez les mains sur les buzzers là. Un jeu avec Sangoku.
Non, attends.
J'ai pas compris ce que tu voulais faire en fait.
Non, un faux quiz. Hein.
Ah, un faux quiz, d'accord.
Ok, faut que je meuble. Donc.
Ça va toi?
Ben, ça va super cette semaine. Bon.
FF15 Régis.
FF15 Régis, ce serait.
Titre de l'année ou pas?
Ça serait affreux. Ce serait vraiment affreux, sans déconner. T'imagines, FF15 Régis.
Rappelle-toi, Mortal Kombat, ils avaient voulu en sortir un aux États-Unis qui s'appelait Mortal Kombat
Deception. Ouais, qui a été...
Ils avaient dû changer le titre
pour
la France.
L'ont changé qu'en Europe.
Oui, bah, ben, voilà. Donc pour la France, parce qu'en France, ça veut pas dire la même chose. Oui.
Alors, non, mais en fait.
Parce que maintenant, quand tu fais des quiz, on peut vraiment. Vas-y, c'est quoi ta question?
Ma question c'était si je vous dis Sangoku, voilà.
Dragon Ball Xenoverse 2.
Oh bah bravo Romain!
Voilà,
oh là là,
parce que maintenant on peut faire des quiz!
Ouais. Ah bah ça je savais pas tout ça. Ça va tenir saoulant hein, pour les.
Ouais, c'est ça qui est cool.
Pour le truc à ne pas acheter si vous avez des enfants en bas âge.
Voilà, surtout. Et si vous avez Julien aussi d'ailleurs au passage. Alors, Xenoverse 2 Romain.
Oui.
Qui vient de sortir.
Alors oui.
Sur PS4 et Xbox One.
Oui. Et PC.
Et PC aussi.
Via Steam uniquement. Donc c'est que du démat sur PC.
Très bien. Alors le premier avait été une petite déception, voire une grosse déception pour toi.
Bah
si
le premier en fait. L'idée du scénario original et tout m'avait bien plu, mais je trouvais que l'histoire était feignante. C'était pas assez travaillé. Mm-hmm. J'avais trouvé le gameplay simpliste et la réalisation très très moyenne.
Et bah, tiens, ça fait pas beaucoup de qualité. Garde tes trois doigts comme ça. On va les faire les uns après les autres et tu vas me dire ce qui a changé.
Et je commence
justement.
Je baisse quel doigt en dernier.
le troisième.
Alors pour nos premiums, effectivement, c'est plutôt rigolo. Ouais. Non, bah, fais dans l'ordre que tu veux.
Donc, ok. Alors, les graphismes, ça, je vais commencer par ça parce que c'est le point noir. Ça a pas vraiment évolué.
Il paraît qu'il y a un petit voile gris aussi.
C'est un truc hallucinant. En fait, donc il y a eu des petites améliorations, mais pas suffisamment. On est toujours dans un jeu qui techniquement est pas digne de ce qu'on fait fin 2016 sur PS4, Xbox One et PC.
Alors qu'il ne sort pas sur la génération. De console précédente.
Non.
Hein.
Donc il n'y avait plus cette limitation là, donc contrairement au premier épisode. Et en plus, quand vous êtes dans les menus, tout est clair, ou dans le hub, tout est clair, ça va. Et à partir du moment où vous commencez les combats, il y a un filtre gris qui se met
alors,
entre.
Ça, je comprends pas.
Mais c'est d'autant plus bizarre qu'il n'est pas sur toute l'image en fait, parce que vous regardez la barre de vie, etc., est nette, mais en dessous de ça, il y a ce filtre gris qui se met par-dessus les personnages et qui ternit à donf l'image. C'est incompréhensible. Donc. Finalement, c'est le plus gros point faible de Xenoverse 2, c'est sa réalisation, qui est un peu décevante. Mmh. Dragon Ball Z, vu l'ampleur de la licence et sa popularité à l'échelle mondiale, mériterait mieux que ça.
On en a déjà parlé dans une lettre ouverte.
Il y a quand même, Cyberconnect.
Voilà, il y a quand même quelques cinématiques qui sont vraiment très très belles. Ça, par contre, faut que je le note quand même par honnêteté. Il y a quelques cinématiques très belles, mais en gameplay, c'est décevant. Donc ça fait deux. Le 2, non, je vais pas le faire.
Non, le fais pas.
J'avais dit quoi? J'avais dit le scénario, oui. Voilà. Ils ont.
On repris est toujours, l'histoire du Time Traveler.
En fait, on est toujours dans la même thématique. Ça se passe après le premier Xenoverse. L'avatar que vous incarniez dans le premier est devenu un héros en fait. Si vous jouez sur la même plateforme au premier et au deuxième, ça importe votre sauvegarde.
Ah, c'est
et il y a
ça.
Une statue à l'image de votre avatar dans le premier qui est en plein milieu de la ville et il apparaît en tant que PNJ dans l'histoire parce que c'est un personnage central en fait, mais vous le jouez plus.
D'accord.
Et donc vous devez créer un nouvel avatar qui va devoir enquêter avec Trunks que vous voyez à l'image actuellement, justement pour empêcher des modifications dans la timeline officielle de DBZ. Sauf que dans le premier, vous remettiez les choses dans l'ordre très vite. Là, les modifications, elles sont un peu plus sophistiquées, ça part un peu plus dans tous les sens. Il y a les personnages des films Dragon Ball qui ont été ajoutés par-dessus ça, et il y a des situations un peu cocasses. Donc, franchement, j'ai trouvé l'histoire plus chouette. Et il y a un renvoi super malin à la fin vers le premier Xenoverse. Je trouve que, franchement, l'histoire est plus travaillée, donc ça, c'est vraiment un point positif. Et comme c'est totalement inédit, et bah, même si vous connaissez tout Dragon Ball par cœur, vous avez la chance de revivre certaines scènes connues un peu modifié justement à cause des mecs qui cherchent à bouleverser le temps, plus une histoire inédite par-dessus ça, et donc c'est vraiment très chouette à ce niveau-là. Tu fronces les sourcils parce que tu ne connais pas ce personnage, c'est ça?
Ouais, il y a plein de personnages.
En fait, c'est un personnage qui vient du MMO Dragon Ball Online qui est sorti qu'en Corée et au Japon.
D'accord.
Et donc ils ont récupéré certaines idées de ce truc-là pour les intégrer au premier Xenoverse et à celui-ci. Donc voilà, donc l'histoire, elle, point positif en plus, hors de la quête principale, vous avez plein de quêtes annexes, mais beaucoup, beaucoup plus que dans le premier Xenoverse. Donc beaucoup de choses à faire, plein de petites scénettes à part. Vous pouvez rejoindre l'armée de Freezer, vous pouvez aller aider le grand, le doyen de Namek, vous pouvez aller faire des missions avec le Great Saiyaman, c'est-à-dire Gohan. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire.
Gohan
en
devenu
plus.
Fragile aussi, oui.
Donc la ville Hub, qui était toute petite dans le premier, qui était assez décevante, là elle est beaucoup plus grande. Donc vous pouvez vous voler pour vous balader d'une zone à l'autre, rencontrer divers personnages, devenir l'élève de plein de personnages connus de Dragon Ball. Donc l'histoire est chouette et il y a beaucoup de choses à faire.
Et pour
ce qui est du gameplay, là aussi il y a des ajouts bien sentis qui ont été faits. Avant, il était possible de spammer des attaques à distance et elles étaient difficilement contrôlables.
Ouais.
Maintenant, ils ont fait une technique qui te permet de passer derrière ton adversaire. Donc si l'autre abuse, vous pouvez aller derrière. Il y a aussi une barre d'endurance, parce qu'avant, si tu avais le bon timing, tu pouvais te téléporter, esquiver plein d'attaques. Maintenant, au bout d'un moment, ça te fatigue. Donc, si tu abuses des téléportations, bah, pendant quelques secondes, tu pourras plus en faire. Et donc là, tu t'exposes beaucoup plus aux attaques. Donc, en fait, avec les enchaînements, etc., tu peux faire des combats plus sophistiqués, plus techniques que dans le premier. Juste, petit problème par moment de détection des collisions. La hitbox n'est pas forcément toujours au poil, surtout quand vous vous battez contre des ennemis géants. Ça, c'est des fois, tu vas être devant et lui mettre des coups et il n'y a aucun impact.
Oui, du genre le gorille, un gorille géant.
Ouais, un Uzaru de Dragon Ball. Donc, pour faire vite, voilà ce que En tout cas, moi, personnellement, j'ai passé un super moment dessus.
J'imagine qu'au niveau du roster, il y a tout le monde.
Il est beaucoup plus complet que dans le premier. Donc, il y a des personnages de DBZ, des personnages de DBGT, des personnages des films et même quelques personnages des derniers films récents et de Dragon Ball Super. Donc, beaucoup plus de choix, plus la possibilité de créer plusieurs avatars de différentes races. Donc, un humain, un Namek, un Saiyajin ou un extraterrestre, etc. ou même un Majin.
Très bien, le test est disponible sur Gameblog, tu lui as mis un?
Je lui ai mis 7.
7
donc,
sur 10.
Donc c'est-à-dire un point de plus que celui
que le premier Xenoverse.
Ouais.
Dans 3 ans, il aura 10.
Ah bah oui, si on compte comme ça, c'est génial. Attends, Xenoverse, donc Xenoverse 5. Bah voilà, bon, rendez-vous dans 3 ans. Donc
non,
pour,
mais il faudrait changer de moteur, enfin faire un truc.
Julien Mercier qui est arrivé. Bah, c'était probablement trop tôt pour cette fois, mais peut-être la prochaine.
S'il pouvait impacter la réalisation des jeux Dragon Ball, ça serait cool. En tout cas, il y a plein de bonnes idées. En tout cas, la série Dragon Ball en jeu vidéo, si tu prends en compte Dragon Ball Fusion et Dragon Ball Xenoverse 2,
ça se redresse.
Ils sont sur une bonne lancée en fait. Ils ont de nouvelles idées d'histoire, des choses. On n'a pas l'impression de refaire tout le temps la même chose qu'on pouvait avoir dans les précédents jeux.
Comme on avait
Ball.
L'impression avec Tenkaichi ou Budokai.
Voilà.
Un
petit vent de fraîcheur, un peu de nouveauté, des choses, des idées bien senties. Donc c'est plutôt cool.
Bon, voilà. Et ben très bien. Et ben j'ai envie de dire ainsi va le podcast de cette semaine, messieurs. Merci Romain, merci Julien,
merci
Julo, merci Poufi
à
la sono.
Évidemment,
tous les thèmes qui ont été développés durant ce podcast, n'hésitez pas.
S'auto-détruiront.
Non, c'était pas ça du tout. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, vous pouvez évidemment discuter dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas, si vous êtes d'accord avec nous ou pas. C'est la même chose.
D'ailleurs, un grand merci. La semaine dernière, vous avez été extrêmement nombreux, plus que jamais.
Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière?
À venir vous exprimer sur le débat animé, passionné qui a eu lieu ici sur ces canapés sur la Nintendo Switch.
C'est la quoi?
La Switch, c'est la machine que t'as pas vue.
Ah oui.
Et ben c'est très cool parce que c'est ça qu'on essaye de faire. C'est très bien qu'on soit pas tous d'accord au sein de la rédaction. On l'exprime. Vous prenez la balle au rebond et puis vous nous dites ce que vous en pensez. Donc peut-être que là encore, il y a des choses qu'on a dit sur lesquelles vous êtes peut-être pas d'accord ou vous êtes d'accord. Ben n'hésitez pas à les exprimer. N'ayez pas peur de vos opinions à partir du moment où c'est fait avec respect et où c'est bien argumenté. Voilà, c'est cool, c'est toujours intéressant.
Absolument. Bon, on se retrouve la semaine prochaine, hein, les mecs.
Ah oui,
comme chaque semaine. D'ici là, portez-vous bien et surtout.
Je crois qu'on parlera beaucoup de la PS4 Pro.
Ah bon ?
Enfin, je dis ça, je dis rien.
Tu dis ça parce qu'on va s'en rapprocher, c'est ça ?
Pas que.
Ok, d'accord.
Ouh, on va la toucher. On va la toucher.
Donc, je vais essayer de finir ma phrase cette fois, attention. D'ici là, portez-vous bien et surtout.
Et alors, la semaine prochaine.
Allez, relou, jouez bien. Allez, ciao.
Ciao.
Salut.
Quel enfant.
It's me.